Vous allez entendre le message « Dieu dévoilé » prêché le 14 juin 1964 par notre précieux frère et prophète William Marion Branham. Restons debout un petit instant pendant que nous courbons la tête pour prier. Notre bienveillant Seigneur, nous sommes vraiment reconnaissants aujourd'hui du privilège que nous avons de nous rassembler sur la terre avant la venue du Seigneur. Puissions-nous examiner nos cœurs aujourd'hui par ta parole et voir si nous sommes dans la foi, pour que nous puissions être prêts pour que, à l'heure de son apparition, que nous soyons, comme l'Écriture l'a annoncé, tous ensemble enlevés avec ceux qui se sont endormis à la rencontre du Seigneur dans les airs et que nous soyons toujours avec lui. Nous te remercions du véritable esprit chrétien qui est encore dans le monde, parmi les gens, de ce qu'ils croient encore en toi et en ta parole. Aussi, nous demandons que ta bénédiction soit sur nous aujourd'hui, que tu répondes sur chacun de nous ce dont nous avons besoin, que nous puissions être arrosés par la parole, que nous puissions grandir et devenir des instruments utiles dans tes mains pour ce dernier jour. Car nous le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre grand berger, dont nous attendons l'apparition. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je tiens à dire que je considère comme un grand privilège ce matin d'être ici de nouveau. Je suis désolé que nous n'ayons pas suffisamment de place assise. Et nous essaierons ce soir-là de prier pour les malades. Aujourd'hui, ce matin, ce serait un peu difficile. Et mon intention, c'était d'enregistrer le message d'aujourd'hui. Il m'a semblé que le Seigneur traitait avec moi sur le sujet, il y a un mois ou deux. Et c'est un message qui est long. Je n'ai pas le temps qu'il faut quand je suis ailleurs dans les réunions parce que nous allouons 30 à 40 minutes au service. Et puis nous, comme les gens doivent aller travailler et tout, je me suis rendu compte qu'il est préférable que je m'en tienne à des messages courts. Et ailleurs, on n'avait pas le temps d'en faire l'enregistrement. Donc, je me suis dit que j'attendrais simplement d'être ici au tabernacle et que j'en ferais alors l'enregistrement ici. Il est un peu long et je sais que vous êtes debout. Aussi, je vais me dépêcher, faire aussi vite que possible. Mais bon, ça ne me dérangera pas si vous changez de place les uns avec les autres. Ou quoi encore, ce sera tout à fait en ordre parce que ceci est une journée spéciale consacrée à faire ces enregistrements. Et alors, nous avons des comptes rendus formidables suite à ce que le Seigneur a fait sur le champ de travail. Et probablement que nous en parlerons plus ce soir, car nous pourrons y consacrer plus de temps, que nous aurons plus de temps à y consacrer. Et maintenant, nous mettons notre confiance dans le Seigneur, qu'il bénira chacun de vous. Je sais que vos cœurs sont remplis de joie alors que vous attendez la venue du Seigneur, et le mien aussi. Il déborde de joie de voir la façon dont les choses se passent, et les conflits nationaux et l'Église dans l'état où elle est, et de voir les signes de sa venue, à la fois physique et spirituelle, et de savoir que le moment de son apparition est tellement proche, ça remplit vraiment nos cœurs de joie. De savoir que nous allons être changés un de ces jours. Nous allons être changés, nous ne serons plus les créatures que nous sommes. Maintenant, je crois, si j'ai bien compris, que certains endroits nous sont reliés par téléphone, que ce message est transmis à Phoenix et dans différentes régions par téléphone. Et alors, maintenant, nous espérons que si c'est le cas, je ne sais pas, où on l'a juste annoncé avant que je vienne, et que vraiment tous les gens là-bas jouissent d'une bonne santé et que la gloire du Seigneur est sur eux. Maintenant, nous allons ouvrir la parole du Seigneur. Et tous, la raison pour laquelle nous sommes ici, c'est pour nous réjouir et pour prendre garde à ce que nous ne sommes pas du tout venus. Et de ceux qui sont présents, personne n'irait croire qu'on puisse rester assis où il fait chaud comme ceci, juste pour le fait d'être ici. Nous sommes ici dans un seul but, c'est d'avoir une marche plus rapprochée avec Dieu. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de croire que le Seigneur Jésus est avec nous. Et nous sommes ici pour marcher plus près de lui. Oh, je supporte assez mal cette chaleur. Je me suis en quelque sorte habitué à la chaleur sèche que nous avons là-bas à Tucson, qui est l'humidité qu'il y a ici maintenant. La chaleur que nous avons là-bas, c'est beaucoup plus chaud que ceci, mais c'est sec. On a parfois un 20e d'un pour cent d'humidité. Peut-être quelque chose comme ça. C'est pratiquement comme de vivre sous une tente d'oxygène. Mais ici, il y a de l'humidité dedans et avec ça, on se sent complètement vidé. Comme on le disait dans le temps. Alors, c'est dur à supporter. Alors, je le sais, et vous, les mères qui avez les petits bébés et ceux d'entre vous qui sont debout, les vieux, les jeunes, les compressés comme vous l'êtes. Et alors, nous espérons que Dieu vous récompensera en abondance de votre sacrifice. D'après ce que j'ai compris, frère Roy Borders est ici quelque part. Je l'ai entendu annoncer au micro. Mais je suppose peut-être qu'il n'a pas réussi à entrer. Bien, c'est l'organisateur des réunions. Alors maintenant, nous voulons aussi annoncer que quelqu'un qui a été des nôtres dans le passé est allé rencontrer le Seigneur ce matin. Un homme, frère Jackson de Sturgis, dans le Michigan. Personne ne connaît les circonstances de son départ ou ce qu'il en est. Il allait très bien et tout simplement, je pense qu'on l'a retrouvé mort ou quelque chose. Je n'ai pas eu tous les détails. Et nous sommes très reconnaissants à Dieu de ce que frère Jackson était un chrétien. Il y a plusieurs années que je l'ai vu, mais il s'est assis au milieu de nous. Il est l'un des nôtres. Que Dieu donne le repos à son âme valeureuse. De partir comme ça, nous croyons que peut-être que c'était quelque chose, que c'était le moment pour lui de partir. Le Seigneur ne nous en a pas prévenu du tout, ni lui non plus. Il est parti tout simplement. C'est comme ça que c'est arrivé. Et je vais appeler son épouse dès que possible et lui exprimer notre peine. Et nous voulons tous rendre grâce à Dieu de sa vie chrétienne valeureuse et de tout ce qu'il a été sur cette terre, et particulièrement pour nous de cette assemblée locale ici. Maintenant, ce soir, j'ai annoncé qu'on allait prier pour les malades ce soir et je parlerai plus des malades ce soir. Mais pour le moment, allons directement à la parole maintenant parce qu'il y a beaucoup de monde et il fait chaud. Ils iront directement à la parole. Je voudrais lire deux passages de l'Écriture ce matin. Ils sont longs et ils me donneront un peu le contexte de ce que je veux dire. Et maintenant, j'aimerais qu'ils retiennent la bande. Frère Sartman et les autres, si possible, avant de la vendre, je voudrais l'écouter avant qu'elle soit diffusée. Maintenant, je veux lire dans Philippiens, chapitre 2, de 1 à 8, et dans 2 Corinthiens 3, à partir du verset 6. Et nous lirons jusque dans le chapitre 4 de 2 Corinthiens, juste pour nous servir de contexte. Maintenant, c'est dans Philippiens, chapitre 2, que je lirai d'abord. Avant de lire, prions. Seigneur Jésus, ta parole est la vérité. Et en cette heure d'agitation où nous vivons, nation qui s'élève contre nation, la peste, les tremblements de terre à bien des endroits, le cœur des hommes qui défaillit, la peur, nous voyons l'Écriture sur la muraille. Or ça, c'est dans le domaine naturel, afin que le monde entier puisse voir ces choses. Mais maintenant, il y a aussi un domaine spirituel. Nous voyons les grandes choses qui se produisent et nous voulons en parler aujourd'hui. Bénis ta parole dans notre cœur. Nous savons qu'il n'y a aucun homme dans le ciel ni sur la terre qui soit digne de prendre ce livre, d'en rompre les sceaux, ni même de le regarder. Mais quelqu'un s'est présenté, un agneau immolé, ensanglanté. Il est venu, il a pris le livre, il était digne, il a pu l'ouvrir. Ô Dieu de Dieu, révèle ta parole à nos cœurs aujourd'hui, pour que nous y trouvions une consolation. Nous sommes tes serviteurs. Pardonne nos péchés, Seigneur, et tout ce qui pourrait empêcher la parole de sortir avec une grande puissance et une grande influence sur nos vies aujourd'hui. Enlève-le, Seigneur, tout obstacle, afin que nous puissions avoir pleinement accès à toutes tes bénédictions qui nous ont été promises par ta parole. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Philippiens 2. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion de miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable à l'homme. Et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Maintenant, si nous voulons bien maintenant, prenons 2 Corinthiens, chapitre 3. Nous commencerons au verset 6 et nous lirons jusqu'au verset 18 et aussi une partie du chapitre 4. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Oh, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient pas fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus une gloire. Ayant donc cette espérance, nous devons grandement liberté. Nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixaient assez pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure. Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs sont convertis au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous avons été transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses et qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous condamnons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Maintenant, mon sujet de ce matin, je mets ma confiance en Dieu qu'il révélera ce qu'il en est. Et chaque fois, si vous prenez les bandes et les écoutez, et j'espère, je veux croire que vous avez reçu une compréhension spirituelle de ce que Dieu a essayé de faire voir à l'Église sans le dire carrément. Voyez, c'est quelque chose, parfois, on doit dire les choses de manière à disperser, de manière à amener certains à s'en aller, certains à partir, et certains à réfléchir. mais c'est fait exprès. Il faut que ce soit fait comme ça. Alors, il se pourrait que certains disent, « Vous voulez dire que Dieu ferait une telle chose, pareil, exprès? » Certainement qu'il l'a fait. Il le fait encore maintenant. Il a dit un jour qu'il y en avait des milliers autour de lui. Il a dit, « Si vous ne mangez la chair du Fils de Dieu ou du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. » Quelle sorte de déclaration pensez-vous qu'un médecin ou une infirmière ou n'importe quelle personne très intellectuelle, qu'est-ce qu'il pensait d'une déclaration pareille venant d'un homme qui avait un ministère comme le sien? Voyons, il dirait « manger la chair », ça c'est cannibale. Boire du sang inhumain, c'est un vampire. Autrement dit, il veut faire de nous des cannibales et des vampires. Et tout l'auditoire s'est éloigné de lui. Il y avait aussi une association de prédicateurs avec lui, 70, qui avait été choisie. Il s'est tourné vers ceux-là et il a dit, « Que penserez-vous quand vous verrez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? » Or, il ne l'a pas expliqué. Il n'a jamais expliqué comment. C'est Paul qui l'a fait plus tard. Il a dit, c'est tout. Voyez? Et alors, à ce moment-là, il a dit, « Que direz-vous à ces prédicateurs quand vous verrez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? » Sans doute que c'est... On dit un instant, là. Oh, nous mangeons avec lui, nous pêchons avec lui, nous dormons avec lui. Et nous savons où il est né. Nous avons vu le berceau dans lequel il a été bercé. Et comment cet homme... Cette parole est dure. Et la Bible dit qu'il n'allait plus avec lui. Ils l'ont quitté. Là, il lui en restait 12. Il en avait choisi 12 et l'un d'eux était un démon. C'est ce qu'il a dit, alors il s'est tourné vers eux. Et personne ne pouvait expliquer ce qu'il venait de dire. Comment feront-ils pour manger sa chair et boire son sang? Et comment est-il descendu alors qu'il est né ici même sur terre? Vous voyez, il ne pouvait pas le comprendre. Ensuite, il s'est tourné vers les apôtres et il a dit, « Voulez-vous, vous aussi, vous en aller? » Et c'est là que l'apôtre Pierre a fait cette glorieuse déclaration, « Seigneur, à qui irions-nous? » Voyez, car nous sommes convaincus, nous savons avec certitude que toi et toi seul, tu as la parole de la vie de cette heure. Voyez, et nous en sommes convaincus. Voyez-vous, ils ne pouvaient pas l'expliquer. La foi, ça ne s'explique pas. C'est quelque chose que vous croyez. Et c'est tellement inébranlable que rien d'autre ne peut la remplacer. Donc, ils savaient que la parole qui avait été écrite pour l'âge où ils vivaient, l'âge messianique qu'il y avait, correspondait tout à fait. Et qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Retourner dans ces églises froides, formalistes, d'où il était sorti? Ils ont dit, où irions-nous? Voyez, nous sommes pleinement persuadés que tu as la parole de la vie. Voyez, ils ne pouvaient pas l'expliquer, mais ils le croyaient. Voyez, Jésus a dit ça pour désherber la foule de ceux qui le suivaient. Voyez-vous, pour qu'ils puissent réunir le groupe. Et de toutes ces personnes-là, seulement 11 d'entre eux, à ce moment-là, ont réellement compris qui il était. Ils savaient qu'il était Dieu, le seul Dieu. Maintenant, mon sujet ce matin, c'est de révéler ou de dévoiler ce Dieu. Dieu s'est toujours, dans chaque âge, il s'est caché derrière un voile, dans tous les âges. Mais il a quand même toujours été Dieu, voyez? Mais il s'est tenu caché du monde. Et il se révèle à ses élus. Par exemple, les apôtres à cette époque-là. Or, c'était Dieu qui parlait en Christ. Bon, l'homme a toujours, c'est dans la nature de l'homme, il a cherché à voir physiquement ce Dieu. Il a toujours voulu le voir. L'homme a façonné des créatures qui lui ressemblent. Il pense à les Indiens adoraient le soleil et nous trouvons en Afrique différentes formes d'animaux et tout. Et là-haut, le mât tétomique en Alaska et différentes formes qui, selon eux, représenteraient ce Dieu. Comme Paul le disait à Athènes, cette fois-là à l'Aréopage, il leur a dit qu'il était superstitieux quant à ce Dieu inconnu, dont il savait qu'il était là, mais qu'il ne connaissait pourtant pas. Et alors, nous voyons même à une époque aussi reculée que celle de Job. Job savait qu'il y avait un Dieu. Il le savait. Il n'y avait pas un être humain avec toute sa tête qui ne sache qu'il doit forcément y avoir quelque chose quelque part. Et donc, Job voulait lui parler. Je voudrais vous faire remarquer sous quelle forme Dieu a choisi de parler à Job. Dieu était voilé quand il a parlé à Job. Il était voilé dans un tourbillon. Il est descendu dans un tourbillon. Croyez-vous que Dieu vient encore dans un tourbillon? Il y en a plusieurs assis ici, un certain nombre qui était avec nous l'autre jour quand il est venu dans un tourbillon. Il nous l'avait dit la veille, frère Bankswood et les autres, quand il s'avait dit, ramasse cette pierre, lance-la en l'air. Et il dit, ainsi dit le Seigneur, vous n'allez pas tarder à voir. Et j'ai ramassé la pierre au sommet de la montagne et je l'ai lancée en l'air. Et naturellement, en descendant, c'est ce qui a déclenché le tourbillon. Voyez-vous, la succion qui a été créée. Vous devez faire quelque chose pour que quelque chose s'ensuive. Jésus a pris un morceau de pain, il a rompu. Ensuite, il a fait la multiplication à partir de ce morceau de pain. Il a pris de l'eau, il en a versé dans un vase. Élie a pris du sel, il en a mis dans un plat. Il a coupé un morceau de bois, et il l'a jeté sur l'eau. C'est quelque chose pour symboliser. Et d'avoir ramassé cette pierre et de l'avoir lancée en l'air en descendant, c'est ce qui a déclenché le tourbillon. Le lendemain, eh bien, il y avait un ministre avec nous, c'était au cours d'une partie de chasse. Il était près de moi et il m'a dit, « Est-ce que le Seigneur donne des visions ailleurs comme ceci, Frère Branham? » J'ai dit, « Oui, mais d'habitude, je viens ici pour me reposer. » Et juste à ce moment-là, la vision est venue. Et Frère Borders, je pense qu'il est dehors en ce moment, il est avec nous. Frère Bankswood, je pense, et oh, il y en avait plusieurs là-bas, 8 ou 10. Et Frère Bankswood guettait ça, juste sur la montagne, juste de l'autre côté, exactement environ un demi-mille de l'endroit où les sept anges étaient apparus. Quand j'étais parti dans ce but-là, d'ici, pour aller là-bas, et que je suis revenu, j'ai dit qu'il en était des sept sauts, environ un demi-mille de là. Et alors, le lendemain matin, pendant que ceci se déroulait, eh bien, j'ai dit au frère, à ce frère, j'ai dit, votre problème, c'est que vous avez une allergie dans votre œil. Les médecins essaient depuis quelques années de l'enrayer, et ils n'y arrivent pas. Ils disent qu'elle va détruire votre œil. Et j'ai dit, mais ne vous inquiétez pas, le Seigneur Jésus a honoré votre foi. Et il a laissé tomber son fusil. Et j'ai dit, votre mère, exactement ce qu'il en était d'elle et quel était son problème. Il a dit, c'est la vérité. Frère Roy Robinson de l'Église, ici, il était présent. Je suppose que vous le connaissez tous. Sachant qu'il était un ancien combattant et sachant qu'il allait se passer, j'ai mis la main sur son épaule. J'ai dit, Frère Robinson, sois prudent. Fais attention. Quelque chose est sur le point d'arriver. Je suis retourné à l'endroit où je devais me tenir et un tourbillon s'est formé dans l'air. Il est descendu en traversant un canyon. Il était tellement grand qu'il a fracassé le rocher à une profondeur de 8 ou 10 pouces au sommet de la montagne. Il a projeté ses pierres à 200 verges. Et il a claqué trois fois comme ça, et une voix en est sortie, vous voyez. Ils étaient tous là. Frère Banks, qui est présent en ce moment, il est venu à moi, il a dit, « C'est ce que tu me disais hier? » J'ai dit, « Oui, monsieur, c'est ça. » Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Ça, il n'y a que moi qui dois le savoir. Frère Banks, tu vois, parce que c'était, ça alarmerait les gens. Mais cela a continué son trajet, ça s'est produit, s'est déplacé vers le nord un peu plus, quelques jours. Cela s'est abattu sur l'océan, vous avez vu ce qui est arrivé dans la région de Fairbanks. C'était un signe du jugement. Maintenant, nous voyons que Dieu encore aujourd'hui, vous voyez, les gens seraient pris de panique. Alors donc, il fallait que ça arrive, voyez-vous. Il faut que ça arrive, c'est tout. Les choses qui doivent arriver, elles doivent arriver de toute façon. Voyez-vous, une fois, Moïse a désiré voir Dieu. Et Dieu lui a dit de se tenir sur le rocher. Et sur le rocher, Moïse s'est tenu là et il a vu Dieu passer. Et son dos ressemblait à un dos d'homme. Dieu était dans un tourbillon, et Dieu, pendant que Moïse se tenait sur le rocher, je suppose que vous avez tous vu la photo là-bas l'autre jour, nous sommes tenus près de ce même rocher. Il y a la lumière là, l'ange de l'Éternel, à l'endroit précis où cela a claqué. Là, il est là sur le tableau d'affichage, en ce moment encore. Remarquez, le Jéhovah de l'Ancien Testament est le Jésus du Nouveau Testament. Voyez, il est le même Dieu, il ne change que de forme. L'autre jour, là, quelqu'un disait, un ministre baptiste à Tucson, « Comment pouvez-vous dire que Jésus et Dieu sont la même personne? » Vous dites, bien, c'est très facile si vous abandonnez seulement votre propre pensée et que vous y pensez dans les termes de la Bible. Ils sont un seul et même être. Dieu est un esprit. Jésus, c'est le corps dans lequel il était voilé. Vous voyez, j'ai dit par exemple, dans mon foyer, pour ma femme, je suis son mari. Et j'ai une jeune fille, Rebecca, je suis son père. Et j'ai un petit-fils qui s'appelle Paul. Je suis son grand-père. Je suis un mari, un père et un grand-père. Ma femme n'a pas de droit sur moi en tant que père. Ou que grand-père. Elle n'a pas de droit sur moi qu'en tant que mari. Et ma fille n'a pas de droit sur moi en tant que mari ou que grand-père. Elle est mon enfant. Voyez, mais pourtant, ces trois personnes-là, elles sont toutes la même personne, voyez. Alors, Dieu, le Père, et le Fils et le Saint-Esprit, ce sont simplement les trois rattachés droit à la dispensation. Dieu est le même Dieu. Dieu s'est transformé, il change de forme. Si vous remarquez ici dans Philippiens, il a dit, ne regardant point comme une proie à arracher, mais il a pris la forme d'un homme. Or, le mot grec, là, pour forme, j'ai passé la journée d'hier à regarder ça, à essayer de concevoir ce que c'était, j'ai trouvé, j'en suis venu à ce mot, de N-morphé. Ça s'appelle E-N-M-O-R-P-H-E. J'ai cherché dans le grec pour voir à quoi correspondait N-morphé. Il se peut que je ne le prononce pas comme il faut, mais c'est pour ça que je l'épelle, pour que si on laisse sortir une bande, les gens sachent, les érudits sachent de quoi je veux parler. Et quand le M-morphé, ce qui veut dire qu'il s'est transformé, il est descendu. Alors, le mot grec, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas voir, mais qui est pourtant là. Et qu'ensuite, ça se transforme et l'œil peut le saisir, vous voyez? Comme Élie à Dothan. Voyez-vous, le serviteur ne pouvait pas voir tous ces anges qu'il y avait autour. Et Dieu a simplement changé. Il n'a pas fait descendre les anges, mais il a changé ce que le serviteur voyait. Et là, les montagnes étaient pleines d'anges et de feu et de chevaux de feu et de chars de feu tout autour de son prophète. Voyez-vous, il a changé ce qu'il voyait. La chose est déjà là. Alors, c'est ce que j'essaie de dire, c'est que Dieu, qui a toujours été, il est ici. La seule chose qu'il a faite quand il s'est fait homme, c'est qu'il a changé de masque. Vous voyez? Cet N-morphé, il s'est transformé de ce qu'il était en ce qu'il est. Ou a changé son masque en un autre acte. Par exemple, dans une grande pièce de théâtre, je parlais de ça ce matin, je faisais un peu de rattrapage là-dedans, Shakespeare, ça fait longtemps. Et quand Shakespeare a écrit la pièce de théâtre là pour le roi Jacques d'Angleterre, quand le personnage de Macbeth, voyez-vous, Shakespeare ne croyait pas aux sorcières, mais dans la pièce, étant donné que le roi, lui, il croyait aux sorcières, alors il a été obligé d'inclure les sorcières. Voyez? Et bon, pour ça, il a modifié la distribution des rôles. Becky, ici, dans Carmen, ils ont joué ça à l'école où elle vient de passer son diplôme il y a quelques semaines. Là, une seule personne pouvait jouer trois ou quatre rôles. Pour ça, il changeait de masque. Parfois, il sort et il est ce personnage-ci. Et la fois d'après, quand il sort, il est un autre personnage. Mais c'est la même personne tout le temps. C'est comme ça pour Dieu. Il s'est transformé d'une colonne de feu pour devenir un homme. Ensuite de là, il s'est transformé, il est redevenu un esprit pour pouvoir habiter dans l'homme. Dieu, agissant dans l'homme, montrant ce qu'il était réellement. Jésus-Christ, c'était Dieu agissant dans l'homme, dans un homme. dans un homme. C'est ça qu'il était. De la colonne de feu, il s'était transformé et alors il était entré. Et ça, c'était un voile dans le désert qui tenait Dieu caché d'Israël. Moïse a vu la forme de son corps, mais en réalité, il était constamment caché derrière cette colonne de feu qui était le Logos, qui était sorti de Dieu. Maintenant, nous voyons ici que depuis la Pentecôte maintenant, Dieu n'agit plus dans l'homme ou agit. Maintenant, il agit à travers l'homme. Vous voyez, à l'époque, il agissait dans un homme, Jésus. Maintenant, il agit à travers des hommes qu'il a choisis dans ce but. Dieu, sous forme d'homme, il s'est transformé de la forme de Dieu à une forme d'homme. Il est venu sous trois noms, de fils. Il est venu sous le fils, le nom du fils de l'homme, du fils de David, du fils de Dieu, trois noms. Alors d'abord, il est venu dans le fils de l'homme, parce qu'il était un prophète. Alors Jéhovah lui-même a appelé Ézéchiel et les prophètes, fils de l'homme, que vois-tu? Jésus n'a jamais dit qu'il était le fils de Dieu, il disait qu'il était le fils de l'homme, parce que les Écritures ne peuvent pas être anéanties. Aucune partie des Écritures ne peut être anéantie. Chaque parole doit être telle qu'elle. C'est comme ça que je le crois. C'est comme ça que cela doit être, parce que je le crois, mais parce que c'est ça la parole de Dieu. Maintenant, si vous remarquez, au commencement, une seule parole à la page 1 de la Bible, dans Genèse 1, nous voyons que toutes les maladies, toutes les peines, tous les chagrins et tout ce qui est jamais arrivé aux êtres humains, c'est arrivé parce qu'une seule personne a été incrédule à l'égard d'une seule parole. C'est ce qui a causé tout ceci. Ça, c'est au début de la Bible, à la fin de la Bible, Apocalypse 22, le même Dieu a dit, « Quiconque retranchera une seule parole de ceci ou ajoutera une seule parole à ceci. » Voyez-vous, il faut que ce soit parole sur parole, exactement telle qu'elle. Alors donc, et prenez simplement, par exemple, la petite chose que quelqu'un me faisait sans cesse de remarquer au sujet des femmes, de ce qu'elles se coupe les cheveux. Or, à mon avis, tant qu'elle fait ça, peu m'importe combien elle peut être sainte dans sa conduite et toute la connaissance qu'elle peut avoir, elle a quand même tort. Elle porte des shorts et des vêtements semblables, peu m'importe ce qu'elle fait, combien elle peut chanter, comment elle peut bien prêcher, tout ce qu'elle peut faire et le genre de vie qu'elle peut mener, il reste quand même que cette parole est transgressée. Vous voyez, il faut que ce soit chaque parole, pas une phrase, une parole, une seule parole. Donc, la Bible n'est aucune interprétation particulière. Il faut que ce soit parole sur parole, telle qu'elle est écrite. Nous devons la croire, et pas seulement la croire, mais la vivre. Si nous ne la vivons pas, alors nous ne la croyons pas, nous disons la croire, c'est tout. Comme en me basant sur ce que je disais, que ses disciples ne pouvaient pas l'expliquer, mais ils le croyaient quand même. Ils faisaient leur confession de foi et ils vivaient selon celle-ci. Quand tous les autres s'en sont éloignés, eux, ils s'y sont tenus. Ils le croyaient. C'est ce que nous faisons. C'est ce que vous devez faire. Peu importe ce que n'importe qui d'autre peut faire, nous le croyons et puis nous y conformons. Si vous ne vous y conformez pas, alors vous ne la croyez pas. Maintenant, remarquez là. Quand il est venu, il devait venir comme fils de l'homme parce que l'Écriture sainte avait dit qu'il le ferait, que Dieu allait leur susciter un prophète. Alors, il ne pouvait pas venir en se disant fils de Dieu parce que ce n'était pas cette dispensation-là. Il était le fils de l'homme qui prophétisait pour accomplir et qui leur révélait toutes leurs choses qui avaient été faites et qui montrait en type ce qu'il était. À l'époque, il était sur terre comme fils de l'homme. Regardez cette Syrophénicienne qui a couru vers lui. Il a dit, « Fils de David, aie pitié de moi. » Il n'a pas même levé la tête. Elle n'avait pas de droit sur lui en tant que fils de David. Elle était une femme des nations. Pas plus que ma fille n'a de droit sur moi en tant que mari ou ma femme comme fille. Elle est quand même ma fille et ma femme. Elle est ma fille dans l'Évangile. Mais sur le plan terrestre, elle n'a aucun droit de m'appeler son père, voyez. Maintenant, remarquez, cette femme de nation, elle n'avait pas de droit sur lui en tant que fils de David. Mais l'aveugle Bartimée, lui, oui. Voyez-vous, il était juif. Donc, il est venu en tant que fils de l'homme. Vous devez connaître ses mots et ses choses. Regardez Hattie Wright cette fois-là quand il y a eu le troisième poule. Puis vous vous en souvenez tous de tout ce qu'elle aurait pu dire. Cette femme a dit la chose juste. Vous devez dire cette parole juste, la chose juste à Dieu. Remarquez. Donc, d'abord, il est venu en tant que prophète. Et ils l'ont crucifié. Les siens l'ont crucifié. Il est venu en tant que fils de l'homme. Ensuite, après que le Saint-Esprit est venu, là, il était le fils de Dieu. Dieu étant un esprit, il était le Saint-Esprit, le fils de Dieu. Il a traversé les âges de l'Église en tant que fils de Dieu. Maintenant, dans le millénium, il sera le fils de David, assis sur le trône de son père David. Il est le fils de David. Maintenant, souvenez-vous, entre le fils de Dieu dans l'âge de l'Église de Laodicée, et ils l'ont mis à la porte. Et dans Luc, il a dit qu'il allait de nouveau être révélé comme fils de l'homme. Le prophète accomplissant ainsi ce qui restait, voyez. Les Écritures se tiennent parfaitement. Fils de l'homme, fils de Dieu, fils de David. Qu'est-ce que c'était? C'est le même Dieu tout le temps. Il change seulement de forme, Ed Murphy. Il fait seulement ce changement-là. Pour lui, c'est une grande pièce. Il joue les rôles. Il est venu comme fils de l'homme, le prophète. C'est précisément ce qu'il a fait. Même cette petite femme, dans tout son péché, là, au puits, elle l'a reconnu. Elle a dit, nous savons que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Et c'est ce qu'il fera. Voyez-vous, elle a reconnu parce qu'elle était une semence prédestinée. Alors que les autres, ils ne l'ont pas reconnu, ils n'avaient rien en eux pour le reconnaître. Ils étaient dans le péché au départ. Pour ses actes, il change de forme. Ensuite, il est venu sous la forme du Fils de l'homme pour l'âge des réformateurs, Wesley, Luther et tout au long. Ensuite, nous voyons qu'ils ont tout confondu exactement comme les Israélites l'avaient fait si bien. Que quand il s'est présenté dans les derniers jours, dans l'âge pentecôtiste, comme le Saint-Esprit, ils l'ont rejeté. Ils ont fait la même chose qu'Israël. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il revient comme le Fils de l'homme, et puis de là, à Fils de David. Et comme nous en sommes proches, Fils de l'homme, Fils de David, Fils de Dieu. Il est révélé dans les derniers jours comme fils de l'homme, selon Malachie 4 et toutes les autres prophéties qui se rapportent à cette heure. Il ne traite plus avec l'Église après qu'ils l'ont mis à la porte. Il est à l'extérieur, il frappe à la porte. Il reste encore des semences prédestinées à l'intérieur. Il doit les atteindre. Dieu, il s'était déversé dans l'homme. Dans Joël 2, 28, nous voyons qu'il a dit, « Je répandrai dans les derniers jours mon esprit. » Maintenant, si vous remarquez le mot là, le mot grec, c'est peu que je me trompe, mais celui que j'ai trouvé, il faut faire attention au mot. En anglais, parfois, il y a deux sens. Par exemple, le mot que nous disons « Dieu », Dieu créa les cieux et la terre, Genèse 1. Mais bon, dans la Bible, il est dit « Au commencement, Elohim ». Or, Elohim, en anglais, on dit « God ». En français, « Dieu ». Mais en réalité, Elohim, ce n'était pas ça, n'importe quoi. Peut-être un Dieu, si on prend le mot « Dieu ». On peut faire d'une idole un Dieu, on peut faire de ce piano un Dieu, on peut faire de n'importe quoi un Dieu. Mais pas quand il est question du mot « Elohim ». Il veut dire « celui qui existe par lui-même ». Vous voyez, ce piano ne peut pas exister par lui-même. Rien d'autre ne peut exister par lui-même. Donc, le mot Elohim veut dire celui qui a toujours existé. Dieu, ça peut vouloir dire n'importe quoi. Vous voyez comme ce mot est différent. Or, quand il est dit ici qu'il s'est déversé ou répandu, maintenant, nous en serons pensés sur ci qu'il aurait vomi ou qu'il aurait répandu quelque chose qui est en lui, voyez-vous, que quelque chose de différent de lui serait sorti de lui. Mais le mot kénos, en grec, ne veut pas dire qu'il aurait vomi ou quelque chose, son bras serait parti, son œil serait parti, une autre personne. C'est qu'il s'est transformé. Il s'est répandu dans Amen, dans un autre masque, dans une autre forme. Ce n'est pas une autre personne appelée le Saint-Esprit qui est sorti de lui, mais c'était lui-même. Vous saisissez? Il s'est répandu lui-même dans les gens. Christ en vous. Comme c'est beau, comme c'est merveilleux de penser que Dieu s'est répandu dans l'être humain, dans le croyant. Répandre, ça faisait partie de sa pièce de faire ça. Dieu, toute la plénitude, toute la divinité corporellement se trouvait dans cette personne, Jésus-Christ. Il était Dieu, le seul Dieu. Pas une troisième personne, ni une deuxième personne, ni une première personne, mais la personne, Dieu, voilée dans une chair humaine. De 1 Timothée 3, 16, sans contredit, le mystère de la piété est grand. En effet, Dieu, Elohim, des majuscules I-E-U dans la Bible. Vérifiez-le, n'importe qui. Le mot dans l'original, ce qui est dit, c'est Elohim. Au commencement, Elohim, vous voyez? Et Elohim, sans contredit, le mystère d'Elohim est grand. En effet, Elohim a été fait chair et nous l'avons touché. Elohim, voilé dans une chair humaine. Le grand Jéhovah qui remplissait tout l'espace, le temps et partout, il s'est fait homme. Nous l'avons touché. Elohim, au commencement, Elohim. Et Elohim a été fait chair et il a habité parmi nous. Qu'est-ce? C'est sa manière de faire les rôles de la pièce. C'est de cette manière qu'il doit jouer les rôles. C'est sa manière de se révéler à nous comme personnes différentes. Nous sommes des mortels. Il le sait. Nous comprenons seulement comme des mortels. Nous connaissons seulement comme des mortels. Nous connaissons seulement ce que nos sens nous permettent de connaître. Et le reste, nous devons le croire par la foi. Nous disons qu'il y a un Dieu, forcément, que nous ne le voyons pas ou ne le croyons quand même. Voyez, qu'il y en ait un ou pas, nous le croyons quand même. Parce que Dieu l'a dit. Comme Abraham, il ne peut pas voir ce fils. Pas de signe, pas de grossesse. Chez Sarah, pas même le cycle menstruel, ni rien. Mais quand même, Dieu l'avait dit. Tout espoir, son sein même était mort et la vie en lui n'y avait plus et son courant de vie s'était desséché et sa vie en elle s'était desséchée. Et pourtant, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié, donnant gloire, sachant que Dieu peut accomplir tout ce qu'il a dit qu'il ferait. C'est comme ça que nous devons croire cette parole aujourd'hui. Comme la chose va-t-elle se faire? Je ne sais pas. Dieu a dit que ça arriverait. Alors, c'est réglé. Qui est cette grande personne invisible? Qui est celui qu'Abraham a vu dans la vision? Mais au dernier moment, il s'est manifesté en chair avant la venue du Fils. Dieu lui-même est venu à Abraham sous la forme d'un homme. Au temps de la fin. Manifesté. Une fois, il l'avait vu dans une petite lumière. Il l'avait vu dans une vision. Il avait entendu sa voix, de nombreuses révélations. Mais juste avant, le Fils promis, il l'a vu sous la forme d'un homme. Il lui a parlé, il lui a fait manger de la viande, il lui a donné à boire. Voyez, Dieu. Dieu lui-même, voilé dans une chair humaine, ça fait partie de sa manière de faire. C'est de cette manière qu'il se manifeste à nous, qu'il manifeste la parole éternelle. Dieu, Jéhovah, fait chair, comme dans Jean 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et là, au commencement était Elohim, et Elohim est devenu la parole, et la parole était Elohim. La parole a été faite chair, Elohim. Voyez? C'est la même chose qui se dévoile tout simplement. C'est comme l'attribut, voyez-vous? C'est en Dieu. Un attribut, c'est votre pensée. Dieu au commencement, l'Éternel, il n'était même pas un Dieu. Il était l'Éternel. Il n'était même pas Dieu. Dieu, c'est une génération ou quelque chose comme ça. Vous voyez, donc il n'était même pas ça. Il était Elohim, l'Éternel. Mais en lui, il y avait des pensées qu'il voulait matérialiser. Et qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il a prononcé une parole, et la parole s'est matérialisée. Voilà tout le tableau de la Genèse à l'Apocalypse. Il n'y a rien qui cloche. C'est Elohim qui se matérialise pour pouvoir être touché, compatir. Et dans le millénium, il y aura Elohim assis sur le trône, voyez-vous. C'est exact avec tous ces sujets autour de lui qu'il a prédestiné avant la fondation du monde. C'est comme un homme qui construit des carillons et qui fait des carillons de fondeur, chaque cloche qui doit rendre un son différent de l'autre, le même matériau, mais tant de fer, tant d'acier, tant de laiton pour ce qu'elle donne de teintement. C'est comme ça ce que Dieu a fait. Il a fait un alliage passant de celui-ci à celui-là, celui-là, à celui-là, jusqu'à ce qu'il obtienne exactement ce qu'il voulait. C'est comme ça qu'il est descendu. Dieu s'est dévoilé dans une colonne de feu, puis dans les prophètes. Ensuite, il est entré dans le Fils de Dieu, qui était Dieu, voyez-vous. C'est le même Dieu qui montre ce qu'il en est, précisément, de perfection en perfection, de gloire en gloire. C'est comme ça que ça se passe pour l'Évangile. Remarquez, au long des âges, de la même manière, c'est par ses prophètes qu'il s'est révélé. En fait, ils n'étaient pas précisément des prophètes, ils étaient des dieux. C'est ce qu'il a dit, en effet. Ce qu'il prononçait, c'était la parole de Dieu. Ils étaient la chair dans laquelle Dieu était voilé. Ils étaient des dieux. Jésus lui-même a dit, il a dit, « Comment pouvez-vous me condamner quand je dis que je suis le Fils de Dieu? » Alors, votre propre loi dit que ceux à qui la parole de Dieu est venue étaient des dieux, voyez? Donc, c'était Dieu qui se trouvait dans un homme appelé un prophète. Voyez, et la parole du Seigneur venait à cet homme, alors ce n'était pas le prophète. Le prophète était le voile, mais la parole était Dieu. Et la parole de cet homme n'aura pas cette action-là. Voyez ce que je veux dire? Elle ne peut pas avoir une action pareille. Mais potentiellement, c'était Dieu, voyez-vous? Il était la parole de Dieu sous la forme d'un homme, appelé un homme, remarquez. Il n'a jamais changé de nature, mais seulement de forme. Hébreux 13, 8 dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, quand il s'est venu, il n'a pas changé de nature. Il est toujours ce prophète. Tout au long de l'âge, même chose. La parole, la parole, la parole, la parole. Vous voyez, il ne peut pas changer de nature, mais il a changé de forme. Hébreux 13, 8 dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a seulement changé de masque. Par exemple, moi, je suis passé de mari. Quand mon enfant est né, je suis devenu père. Quand mon petit-fils est né, je suis grand-père, voyez. Mais ça, je ne change rien, c'est toujours, toujours moi. C'est comme ça pour Dieu. Je vais seulement changer, voyez-vous. On change de forme, c'est tout. Remarquez, et la nature opère le changement. On passe d'un jeune homme à un homme d'âge mûr, à un vieil homme. Et voilà, voyez-vous, on change de forme, c'est tout. Maintenant, vous ne pourriez pas dire qu'un jeune homme ici de 16 ans dit qu'il est grand-père. Il ne peut pas l'être. Il doit changer de forme. Quelle année opère le changement? Et puis, il devient grand-papa. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est la même personne tout le temps, la même personne, Dieu tout le temps. C'est de cette manière qu'il se révèle à son peuple, en faisant comme ça. Remarquez, au long de l'âge de la colonne de feu, il s'est révélé à son peuple. Dans l'âge de Jésus, il s'est révélé à son peuple. Dans l'âge de la Saint-Esprit, comme le Fils de Dieu, Fils de David, c'est toujours de cette façon qu'il se révèle à son peuple, en amenant les gens à le connaître. Il est voilé derrière quelque chose. Remarquez, de la même manière ou avec la même nature chaque fois, Dieu voilé dans Jésus pour accomplir l'œuvre de la rédemption à la croix. Dieu ne pouvait pas mourir en tant qu'esprit. Il est éternel. Mais il a fallu mettre un masque et jouer le rôle de la mort. Il a bel et bien mort, mais il ne pouvait pas le faire sous la forme de Dieu. Il devait le faire sous sa forme de fils. En tant que fils de l'homme sur la terre, il devait être sous forme de fils. Ensuite, il est revenu à la Pentecôte. Il était de nouveau fils de Dieu. Voyez ce que je veux dire? Il devait venir dans une chair humaine pour personne sans désir sexuel, parce que là encore, c'est la preuve de notre affirmation sur la semence du serpent. Voyez-vous? Sexuel. Le sexe, pas de pomme. Le sexe. C'est exact, forcément. Remarquez. Ici, voyez-vous, car n'importe quel brave homme, regardez ses prophètes à l'époque, mais lui, il fallait qu'il soit plus qu'un prophète pour pouvoir accomplir ça, qu'il fallait qu'il naisse d'une vierge. Montrant cette naissance d'une vierge prouvait qu'il fallait qu'il naisse d'une vierge pour ôter la malédiction, l'antidote. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, forcément, que c'était le sexe. Il l'a prouvé par sa propre venue. Il est venu, pas par un désir sexuel, mais en naissant d'une vierge. Il a changé le masque. Il est passé de Jéhovah à Jésus pour pouvoir accomplir l'œuvre rédemptrice dans la pièce où il jouait ce rôle, Dieu à la croix. Les Grecs voulaient le voir dans Jean 12, 20. Beaucoup d'entre vous m'ont entendu prêcher sur ces paroles. Messieurs, nous voudrons voir Jésus. Avez-vous remarqué ça? Alors, les Grecs, c'était des érudits. C'était des hommes remarquables. Ils éprouvaient un grand sentiment pour Dieu, comme Paul le leur a prêché à l'Aréopage. Ils tenaient le premier rang mondial pour la science et l'éducation. C'était des gens remarquables. Seulement, ils adoraient et croyaient à la mythologie et tout, les livres d'art et les arts curieux, et ainsi de suite. Mais ils étaient en émoi au sujet de cet homme qui pouvait guérir le malade et qui pouvait annoncer d'avance les choses qui arrivaient exactement quelles. Ils étaient en émoi alors qu'ils se sont venus pour le voir. Maintenant, soyez-vous très attentifs, ne manquez pas. Ils sont venus, ils ont dit à Philippe de Bethsaida, « Monsieur, nous voudrions voir Jésus. » Et Philippe et un autre disciple l'ont amené à Jésus, voir Jésus. Maintenant, remarquez les paroles mêmes que Jésus lui a apportées quand il était venu pour voir qui il était. Ils n'ont pas pu le voir. Ils ont vu la forme, mais il était dans son temple. Dieu était dans son temple, voilé dans une chair humaine. Remarquez les paroles qu'il a prononcées. Si le grain de blé ne tombe en terre, voyez-vous, il ne meurt, il reste seul, voyez. L'heure est venue, elle sera bientôt là où le Fils de l'homme sera glorifié, voyez-vous. Il doit disparaître de cette terre. Si cette heure ne vient pas, vous ne pourrez jamais le voir, voyez. Tenez, pourquoi ne pouvait-il pas voir Jésus? Il était masqué. Dieu était masqué. Les Grecs voulaient un Dieu et il était là. Mais ils n'ont pas pu le voir à cause du voile. Et c'est la même chose aujourd'hui. Ils ne peuvent pas le voir à cause du voile. Il est jeté sur leur visage. Ces Grecs étaient masqués. Jésus était masqué devant ces Grecs. Remarquez, il leur a dit, « Si ce grain de blé ne tombe en terre, il reste seul. » Ils ne pouvaient pas comprendre comment, pourquoi. Ils ne pouvaient pas le voir. Un homme se tenait là, il était venu pour voir Dieu. Et ils ont vu un homme. Voyez, ils n'ont pas pu voir Dieu parce que Dieu était voilé devant eux. Maintenant, retenez bien ça. Dieu était voilé dans un homme. Il pouvait dire, personne ne peut faire ses œuvres. Si ce n'est Dieu, personne ne peut faire ça. Et comment ici, il y a un homme? Et pourtant, les œuvres de Dieu se manifestent à travers lui. Voyez, ils ne pouvaient pas comprendre que Dieu était voilé. Il est voilé dans un homme comme il a toujours été voilé. Mais il était voilé devant eux. Il était dans son temple humain. Dieu était dans un temple humain. Maintenant, faites très attention. Or, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous voyez? Dieu voilé. Se cachant du monde, voilé dans un être humain. Vous voyez? Ici, il y avait un Dieu. C'est grec qui disait, nous voudrions le voir. Et Jésus a dit, un grain de blé doit tomber et mourir. Vous devez mourir à toutes vos idées. Vous devez vous débarrasser de vos propres pensées. C'est comme ses disciples, ils ne pouvaient pas expliquer ce qu'il en était de manger son corps et de boire son sang. Mais voyez-vous, ils étaient complètement morts à ces choses. Ils étaient morts pour un principe. Ils étaient morts pour Christ. Quoi qu'il ait pu être ou combien sa défaite semblait assurée, ils le croyaient quand même. De toute façon, ils pouvaient voir ce qu'il y avait dans cet homme. Un homme qui mangeait, buvait, pêchait, dormait, il était né ici sur terre et qui marchait avec eux, parlait avec eux, portait les mêmes vêtements que les autres, mais c'était Dieu. Donc, les Grecs n'ont pas pu le voir parce qu'il était caché d'eux dans un être humain. Remarquez la parole qu'il leur a adressée. Si ce grain de blé ne tombe en terre, Dieu voilé sous la forme d'un homme s'est caché à leurs yeux. Tout ce qu'ils ont pu voir, c'est un homme. Mais ceux qui étaient prédestinés, ils ont vu Dieu. L'un a vu un homme, l'autre a vu Dieu, voyez? Et c'était Dieu voilé dans un être humain, donc ils avaient tous les deux raison. Mais c'est la foi que vous avez dans ce que vous ne voyez pas. Vous le croyez quand même. Dieu voilé dans un être humain. Il était dans cette chair-là, et cette chair-là était son voile. Le voile s'est déchiré, voyez-vous, pour que Dieu puisse être manifesté. Dans l'Ancien Testament, Dieu était caché. quand il était sur son propitiatoire, sur le propitiatoire, par un voile, dans l'Ancien Testament, Dieu était dans son temple, mais les gens entraient et adoraient comme ceci. Mais souvenez-vous, il y avait un voile, amen, qui cachait Dieu. Il savait que Dieu était là. Il ne pouvait pas le voir. Cette colonne de feu n'est plus jamais réapparue là. L'avez-vous remarqué? Pas une seule fois dans l'Écriture. Depuis le moment où cette colonne de feu est entrée derrière ce voile, elle ne s'est montrée de nouveau jusqu'à ce qu'elle vienne par Jésus-Christ. Dieu était voilé. Quand il était sur terre, il a dit, « Je viens de Dieu et je retourne à Dieu. » Ensuite, Paul, après sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, en route vers Damas, voilà cette colonne de feu qui était là de nouveau. Qu'est-ce que c'était? Elle était sortie de derrière le voile. Gloire à Dieu! Il avait été derrière le voile. Or, il avait été derrière le voile. Un voile de peau, voyez-vous, des peaux de blaireau derrière le voile. Et quand ce voile s'est déchiré, le jour de la crucifixion, que le voile qui l'enveloppait s'est déchiré le jour de la crucifixion, le propitiatoire était à la vue de tous. Or, les Juifs ne pouvaient pas comprendre que Dieu puisse faire miséricorde à un peuple pécheur et vil comme nous. Mais ils ne pouvaient pas voir celui qui faisait miséricorde parce qu'il était caché. Il était derrière le propitiatoire, à l'intérieur, avec des peaux de blaireau suspendues qui le couvraient. Avant, si un homme, quel qu'il soit, pénétrait derrière ce voile, c'était une mort subite. Amen. Or, nous allons dégager une leçon de là dans un instant, voyez-vous. Si vous pouvez comprendre ce qu'il en est de pénétrer derrière ses peaux, même l'un des fils d'un sacrificateur a essayé de le faire une fois et il est mort. N'allez pas derrière ce voile, l'homme qui pénétrait derrière, pourquoi? Il n'y avait encore aucune rédemption là, il était potentiellement, c'était seulement potentiel. Et tout ce qui est potentiel, ce n'est pas encore la vraie chose, voyez-vous? Ça l'est seulement potentiellement. C'était une rédemption, le péché était couvert, pas omis, remis plutôt, pas remis. Remis, c'est supprimé, éliminé. Et donc, le sang des brebis et des boucs ne pouvait pas faire ça. Donc, Jéhovah était caché derrière un voile. Or, derrière ce voile, là où il était caché, de pénétrer à l'intérieur, un homme tombait mort, d'essayer d'y entrer. Mais depuis la Pentecôte, depuis la crucifixion, quand ce voile a été déchiré du haut jusqu'en bas par cette génération, Jésus était ce Dieu voilé. Et quand il est mort au calvaire, Dieu a envoyé du feu et de la foudre et il a déchiré ce voile du haut en bas, de sorte que tout le propitiatoire a été exposé au regard de tous. Mais ils étaient trop aveugles pour voir ce qu'il en était. Quand Moïse le disait ici, eh bien, Paul le disait à Moïse, quand on lit Moïse encore maintenant, ce voile est jeté sur leur cœur. Oh, frères et sœurs, voilà ce que les Juifs ont fait quand le voile a été déchiré, que Dieu a alors été exposé au regard de tous, suspendu à la croix, il était exposé au regard de tous. Mais eux ne pouvaient pas voir ce qu'il en était. Serait-il possible que ceux des nations aient fait la même chose? Oh Dieu, alors qu'ils ont eu les âges de l'Église, le Fils de Dieu, mais maintenant que ce voile de dénomination et tout, que ce voile de la tradition que nous avons depuis la Pentecôte, que les traditions de l'Église ont été déchirées, les choses que les gens disaient, les jours des miracles sont passés, ces choses-là, Dieu a enlevé le voile de tout cela et il l'a exposé au regard de tous et ils sont prêts à le crucifier de nouveau. C'est tout à fait pareil. Le Dieu dévoilé, exposé au regard de tous. Il aurait dû le voir alors qu'il se tenait là, mais il était trop ordinaire. Il était un homme comme les autres. Il ne pouvait pas voir ce qu'il en était. Voyez-vous, là se tenait un homme. Eh bien, ils ont dit, ce regard-là, de quelle école sortir? Mais souvenez-vous, quand cette lance s'est enfoncée dans son corps, que l'Esprit l'a quitté, le temple, les billots qui servaient au sacrifice ont été renversés et la foudre s'est abattue comme un fouet sur le temple et a déchiré le voile. Qu'est-ce que c'était? Leur Dieu était là, suspendu au calvaire. Il était trop aveugle pour le voir. Il a été exposé au regard de tous, et là encore, il ne voit pas ce qu'il en est. Ils sont aveuglés. Dieu voilé dans un être humain. Vous vous souvenez ensuite, il est venu à Paul, après à Pierre en prison, sous la forme de la colonne de feu. Vous vous en souvenez? Mais dans les derniers jours, il doit revenir de nouveau. Mais une colonne de feu doit revenir de nouveau pour manifester le Fils de l'homme. Voyez-vous? Pour montrer la parole, la lumière, les traditions du passé, elles seront anéanties. Rien ne fera obstacle à cela. La chose se fera de toute façon. Dieu va vraiment démolir cette dénomination et ces traditions. Quel genre d'esprit va-t-il utiliser pour le faire? Comme ce qu'il a fait la première fois. Regardez ce qu'il a fait à l'époque d'Élie, à l'époque de Jean. Ne prenez pas à dire en vous-même que vous avez Abraham pour père, parce que c'est Saint-Pierre. Dieu peut susciter des enfants Abraham. Voyez, n'allez pas penser, vu que je fais partie de ceci, je fais partie de cela. Voyez, Dieu, il déchire le voile. Voyez-vous, pour montrer qui il est. Voyez, observez le voile quand il se déchire, ici, maintenant. Nous voyons ce qu'il en est, là. Bon, il y a une époque, si un homme pénétrait à l'intérieur de ce voile, c'était un mort subite. Maintenant, ce n'est pas y pénétrer qui est la mort. Amen. Si vous ne pouvez pas briser ce voile de la tradition, franchir ce mur de la dénomination pour voir Dieu dans sa puissance, c'est la mort. Alors qu'à une époque, c'était la mort de pénétrer à l'intérieur, maintenant, c'est de rester à l'extérieur qui est la mort. Tout le propriétaire est là, exposé au regard de tous. N'importe qui peut le voir. Le voile est déchiré. Gloire à Dieu. Tout le propriétaire est exposé au regard de tous. Comment Dieu a pu faire miséricorde à de vils pécheurs comme nous quand il se cachait? C'était un mystère. Et maintenant, c'est exposé au regard de tous ou à la vue de tous, révélé par sa parole. C'est toujours la parole, constamment, laquelle est Dieu. C'est la parole qui dévoile la chose. Si ces gens avaient connu la parole de Dieu le jour où Jésus est mort, ils auraient vu le propitiatoire. Ils auraient vu qui il était. Qui était-ce donc? Pourquoi le voile s'est-il déchiré? Souvenez-vous, d'y pénétrer, c'était la mort. Personne ne pouvait le voir. Moïse l'a vu sous une forme. C'était le dos d'un homme. Eh bien, le voici, le dos ensanglanté. Le même homme. Qu'est-ce que c'était? Dieu voulait leur montrer le propitiatoire. Dieu voulait leur montrer qui il était. Alors le voile du temple, par la main de Dieu d'en haut, il a été déchiré du haut en bas, ce qui a exposé Dieu au regard de tous. C'était Jésus-Christ, suspendu à la croix, le propitiatoire. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Les gens étaient trop aveugles pour le voir. Maintenant, la chose s'est répétée de nouveau, leur tradition. La parole là qui est venue le jour de la Pentecôte, qui était sous la forme du Fils de Dieu, ils ont formé une organisation à Nicée, Rome, et bien vite, c'est passé aux méthodistes, aux baptistes, aux presbytériens, aux pentecôtistes et tout. C'est une tradition organisée, si bien qu'un homme ne sait plus où il en est. Mais gloire à Dieu, il a fait une promesse dans les derniers jours, ce qu'il ferait. Il exposerait sa parole au regard de tous, dévoilée devant nous, de nouveau, voyez-vous, il la dévoilerait. S'il avait seulement connu la parole, il aurait su qui était Jésus. Si un homme connaissait seulement la parole de Dieu, il saurait en quelle heure nous vivons et ce qui est en train de se passer. Il refuse simplement d'écouter cette parole, les traditions. Si les Juifs ont vu la chose comme ça, c'est à cause de quoi? De quoi? Il semble qu'il aurait bien pu voir, en fait, parce que la chose avait été déchirée et découverte. Elle avait été déchirée et découverte dans un but. Pourquoi ce réveil qui se poursuit en ce moment? Comment peut-il avoir du succès? Comment peut-il être béni? Peu m'importe le nombre d'imitations qui en sont sorties et quoi d'autre. Quand Moïse est sorti, un mélange de gens de toute espèce sont sortis avec lui. Mais c'est fait dans un but. C'est Jéhovah lui-même qui ôte le voile de sur Dieu pour montrer la différence entre le vrai et le faux, lequel les méthodistes, les baptistes, les presbytériens ou qui est dans le vrai. C'est la parole de Dieu qui est vraie. Que toute parole d'homme soit un mensonge et que la mienne soit la vérité. Dieu n'a besoin d'aucun interprète. Il en fait lui-même l'interprétation. Il la manifeste et c'est ce qui donne l'interprétation. Dieu qui se dévoile, oh là là, en plein là, au milieu de nous, nous voyons sa grande main qui annonce ces choses, qui fait ces choses. J'ai quelque chose à dire là-dessus ce soir. Voyez-vous? Sur la façon de surveiller la main de Dieu, ce qu'elle fait, comment elle se dévoile, voyez? Et les gens disent, oh, c'est insensé, c'est du fanatisme, ça ne vaut rien, c'est insensé, c'est Belzébul, c'est un démon, c'est de la divination, c'est ceci. Voyez-vous, la même chose que ce qu'ils avaient dit de lui, ô Église, si on laisse sortir cette bande, ne pouvez pas voir, ministre de l'Évangile, en quel temps vous vivez? Ne pouvez-vous pas voir l'heure où nous sommes? Dieu qui montre qui il est, qui met de côté, regardez ce voile du temple, il a déchiré en deux pour qu'ils puissent voir Dieu exposé au regard de tous. Ils étaient trop aveugles pour le voir. Il a fait la même chose aujourd'hui en exposant sa parole en plein devant tous, ce qu'il avait promis. Chaque promesse de la parole en plein devant nous, exposée au regard de tous. Vous savez ce que fait l'Église des nations? La même chose que ce que l'Église juive avait fait, trop aveugle pour le voir, c'est tout. Le voile sera jeté sur leur cœur comme à cette époque-là. Remarquez, d'en rester éloigné maintenant, c'est la mort. Vous devez y pénétrer par ce voile, sinon vous n'y pénétrerez pas. Dieu qui a pu le faire, miséricorde, mais souvenez-vous de ce qu'ils en étaient. Dieu manifeste maintenant ce qu'il avait derrière le voile. Observez ce qu'il y avait derrière le voile, la parole. Qu'est-ce qu'il voilait? La parole. Qu'est-ce que c'était? Elle est dans l'arche. C'était la parole que ce voile cachait. Voyez? Et Jésus était cette parole, et il est cette parole, et le voile de sa chair la cachait. Et aujourd'hui, le voile de la tradition cache la parole de nouveau. Il dit, ce n'est pas vrai, mais c'est bien vrai. Dieu en témoigne. Il fait retentir ce qu'il est, éclatant comme le soleil, devant tous, et il ne le voit pas. Ô Dieu, sois miséricordieux envers nous. Le type de ça, Moïse, qui, après avoir été dans la présence de Dieu, revient avec la parole de Dieu pour cet âge-là. Maintenant, regardez bien. Nous sommes dans Exodus 19. Maintenant, remarquez, ne manquez pas ceci, Exode 19. Moïse qui revient après avoir été dans la présence de Dieu, ou 20 et 21, 19, 20 et 21. Moïse qui revient après avoir été dans la présence de Dieu, il a pénétré dans la parole. La parole a été écrite. Et lui, dans la présence de Dieu, avec la parole, il avait la parole pour cet âge-là. Il y a eu une partie de la parole pour chaque âge. Et quand Moïse est arrivé, son visage rayonnait tellement. Voyez, la parole était en lui, prête à être manifestée, à être donnée au peuple. La parole véritable, Dieu l'avait écrite. Et elle était avec Moïse. Remarquez. Elle était avec Moïse et elle était prête à être manifestée. Il était la parole pour eux. Il était la parole vivante cachée. Il se voilait. Moïse devait mettre un voile sur son propre visage. Pourquoi? Il était cette parole. Amen. Tant que cette parole n'était pas divulguée, Moïse devait se voiler. Amen. Voyez-vous? La parole, où qu'elle se trouve, elle est voilée. Moïse avait la parole. Maintenant, souvenez-vous, après que la parole avait été manifestée, Moïse était Moïse de nouveau, voyez? Mais pendant que cette parole était en lui, pour être apportée, il était Dieu. Eh bien, il n'était plus Moïse, il avait la parole du Seigneur pour cet âge-là. Rien ne pouvait le toucher jusqu'à ce que ce soit terminé. Il avait cette parole avec lui, et donc quand il est venu, les gens ont détourné la tête, ils n'arrivaient pas à comprendre. Il avait été changé, c'était une personne sage, différente. Il venait avec cette parole, il mettait un voile, la Bible dit, sur son visage, car il avait la parole, il était la parole pour eux. Maintenant, regardez, si Moïse, frère, ceci va être offensant, mais si Moïse, comme Paul le disait ici dans 2 Corinthiens, chapitre 3, si Moïse, devait se voiler le visage avec une gloire comme celle-là sur lui. Voyez-vous, c'est parce qu'il s'agissait là d'une gloire naturelle, il s'agissait d'une loi naturelle. Et si Moïse, sachant que cette loi devait périr, mais la gloire était tellement grande qu'elle aveuglait les gens alors qu'il devait mettre un voile sur son visage, combien plus grande sera celle-ci? Les gens aveugles spirituellement. Oui. Cette gloire-là était passagère. Cette gloire-ci ne passera pas. Vous voyez? Moïse, les lois charnelles, la condamnation, aucune grâce, ni rien, elle vous condamnait, c'est tout. Mais ceci dont nous parlons, celle-là n'avait aucun pardon. Elle ne faisait que vous dire ce que vous étiez. Celle-ci vous fournit un moyen de vous en sortir. Et quand cette parole-là sera dévoilée, oh là là, quel genre de visage est-ce que ce sera? Il devrait être voilé. Il faut qu'il soit voilé maintenant. Remarquez. Donc, l'Esprit est voilé dans un temple humain. Voyez-vous? Il le fait afin de prononcer les paroles naturelles par un voile naturel. Maintenant, c'est Paul qui parle ici, là. Et dans ce sens, la parole Esprit, nous sommes ministres, non de la lettre, de la loi, mais nous avons été rendus capables d'être ministres de l'Esprit. L'Esprit qui prend la lettre et la manifeste. Ça, c'était seulement la loi qu'il fallait aller regarder. Ça disait, tu ne commettras point d'adultère, tu ne dévoileras pas, tu ne mentiras pas, tu ne feras point ceci, cela ou autre chose, voyez? Il fallait regarder ça. Mais ceci, c'est l'Esprit qui vient sur la parole promise pour cet âge-ci et qui produit et manifeste, non par deux tables de pierre, mais la présence du Dieu vivant. Pas un concept mythique que quelqu'un aurait forgé ou un Houdini quelconque ou un tour, mais la promesse même de Dieu révélée et manifestée en plein devant nous. Derrière quel genre de voile est-ce que cela va être? Et de perdre ça. Voyez-vous, cela était tellement grand que même les gens disaient, quand ils ont vu Jéhovah descendre dans cette colonne de feu et qu'il s'est mis à ébranler la terre et les choses qu'il a faites et la montagne qui était embrasée, et même quiconque essayait de s'approcher de cette montagne périssait. C'était tellement impressionnant que Moïse lui-même était épouvanté devant la secousse. Alors si cette fois-là, il n'a ébranlé que la montagne, cette fois-ci, il ébranlera les cieux et la terre. Qu'en est-il de cette gloire-ci? Si celle-là était voilée par un voile naturel, celle-ci est vraiment voilée par un voile spirituel. Alors ne cherchez pas à regarder au naturel. Entrez dans l'Esprit et voyez où vous en êtes. Voyez à quelle heure nous visons. Est-ce que cela a du sens pour vous? Voyez-vous un voile spirituel qui est sur les gens de dire « Je suis méthodiste, je suis aussi bon que n'importe qui, je suis baptiste, je suis pentecôtiste. » Vous ne vous rendez-vous pas compte que cette chose-là est un voile de tradition? Elle vous cache Dieu. Ce sont ces choses-là qui vous empêchent d'apprécier entièrement. Oh, vous dites « Je pousse des cris et je saute en l'air. » Il a dit toute la parole. Ève a cru toute parole, sauf une. Voyez? C'est la parole entière de Dieu, la promesse de cette heure manifestée. Voyez? Maintenant, remarquez, alors que nous continuons à avancer, j'ai beaucoup de choses à dire, là, mais j'ai une vingtaine de pages de notes, mais je ne vais pas les donner toutes. Voyez-vous, je vais me dépêcher. Il était voilé, couvert d'un voile naturel avant de pouvoir annoncer la parole aux gens. Maintenant, Dieu doit se voiler, comme il l'a promis, dans la chair humaine. Dieu, c'est vous. Dieu doit se voiler dans la chair humaine et jeter un voile spirituel sur eux, de dire, eh bien, je suis ceci, je suis cela, pour pouvoir parler aux gens. Quand ce voile, qui est le voile de la tradition, est déchiré, alors ce qu'ils disent, eh bien, les jours des miracles sont passés. Un gars me disait l'autre jour, un petit prédicateur baptiste là-bas, il est venu me voir, frère Green, il disait, frère Branham, voici une chose que j'ai à vous reprocher. Il disait, vous essayez d'amener les gens, c'était à l'auberge Ramada, quand nous avons fait la réunion là-bas, il disait, vous essayez d'amener les gens à croire à un âge apostolique, à vivre aujourd'hui comme s'ils étaient à l'âge apostolique. Il disait, l'âge apostolique a pris fin avec les apôtres. J'ai dit, ah oui? Oui, j'ai dit, qui a été le porte-parole de l'âge apostolique? Il a dit, les 12 apôtres dans la chambre haute. J'ai dit, dans ce cas, ça élimine Paul. J'ai dit, le porte-parole, c'était Pierre. Et Pierre a dit, le jour de la Pentecôte, quand les gens ont vu tout ce qui se passait, le Saint-Esprit qui était à l'œuvre, il a dit, la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Jamais. S'il appelle toujours, alors la même chose est encore ici. Quand l'âge apostolique a-t-il pris fin, alors? L'âge apostolique prend fin quand Dieu a fini d'appeler. Il n'a pas dit un mot, il a juste pris son chapeau, il est parti. C'est seulement par la parole. C'est par la parole. Jésus a dit à Satan, il est écrit. Vous voyez, c'est ça, il est écrit. J'ai dit, Pierre a dit qu'il ne se terminerait jamais en aussi grand nombre que le Seigneur appellerait. Cette bénédiction allait être pour eux. Maintenant, vous dites, il a arrêté quand? Sans rancune. J'ai dit, non, monsieur, absolument aucune. Allez bien. Pierre a dit que c'était pour tous ceux que Dieu appellerait qu'ils allaient recevoir la même bénédiction apostolique. Ça, c'est la parole du Seigneur, vous voyez. Maintenant, le voile naturel, Dieu, la parole, voilée dans la chair humaine. Qu'est-ce que c'était? Dieu était voilé dans Moïse. Dieu Moïse voilait la présence de Dieu avec cette parole en lui. Comme ça, il était tellement parfait qu'il devait se voiler le visage. C'était un prophète confirmé qui a dévoilé la parole et qui leur a dit, « Tu ne feras pas telle chose, tu ne feras telle chose et tu ne feras pas telle chose. » Vous voyez, pour dispenser sa parole à cette génération-là, il s'est voilé dans un être humain, sinon la parole aurait aveuglé même ceux qui étaient appelés à sortir. Vous voyez, même les gens qui étaient là-bas, ils ne pouvaient pas supporter de voir ça. Dans Exode, c'est ce que nous voyons, ils ont dit que Moïse parle et non Dieu. Vous voyez pourquoi la colonne de feu n'apparaît pas tellement souvent? Oui. Dieu a dit, c'est ce que je vais faire, je vais leur susciter un prophète. Amen. Je vais leur en susciter un. Il est venu précisément, je vais susciter, il sera la parole. Il a dit, s'ils veulent croire, voir ce qu'est la parole, il a dit, maintenant Moïse, je te suis apparu là-bas dans le buisson ardent. Il a dit, je vais descendre en bas de cette montagne. Il a dit, ils verront que tu as dit la vérité. Je vais apparaître ici, ce même moyen du feu. Je vais apparaître ici et prouver aux gens. Je vais confirmer ton ministère. C'est ce qu'il a dit à Moïse, ici, en autant de mots. Remarquez, il a dit, maintenant je vais te glorifier aux yeux du peuple. Il a dit, bon, tu leur as dit que je t'avais rencontré là-bas dans un buisson ardent. Maintenant, je vais descendre le même feu et je vais faire voir aux gens que tu n'as pas menti à ce sujet. Vous pourrez le prouver par la science, même si vous voulez. Je vais descendre en plein là et leur faire. Et quand il s'est mis à tonner, quand Jéhovah a commencé à tonner, les gens ont dit, non, que Jéhovah ne parle pas, nous mourrons. Voyez-vous, il fallait qu'il soit voilé. Alors Dieu s'est voilé dans Moïse, et Moïse est descendu, il a prononcé la parole du Seigneur avec un voile sur son visage. Pas vrai? Jéhovah voilé sous la forme d'un prophète, parce que ça aurait été absolument, et Dieu a dit qu'il ne leur parlerait plus comme ça, il leur parlerait seulement par un prophète. Ce serait le seul moyen qu'il prendrait pour parler à partir de là, c'est le seul moyen qu'il n'a jamais pris pour parler, c'est exact, jamais par aucun autre moyen, il ne ment pas. Remarquez, Moïse seulement avait la parole. Alors, ce n'est pas un groupe qui est descendu. Ce ne sont pas simplement les pharisiens ou les sadducéens, ou ce n'est pas une certaine secte ou un clan. C'était Moïse. Il a pris un seul homme. Il ne peut pas prendre deux ou trois pensées différentes. Il prend un seul homme. Moïse avait la parole. Et Moïse seul. Même Josué ne l'avait pas. Personne d'autre ne l'avait. Amen. Josué était un général. Josué était un commandant de l'armée. Josué était un croyant, un chrétien. Mais Moïse était un prophète. La parole ne peut pas venir à Josué, elle doit venir à Moïse. Il était le prophète majeur de l'heure. Remarquez, la parole n'est jamais venue à Josué tant que Moïse n'est pas parti. Non, monsieur, Dieu traite avec un seul à la fois. Dieu est un, voyez. Donc, Moïse seulement avait la parole, pas un groupe. Regardez, Dieu a adressé une mise en garde à tous de ne pas essayer de suivre Moïse à l'intérieur de ce voile, des imitateurs, voyez. Femme, homme, prêtre, peu importe qui, combien sien, combien homme, combien honorable, combien ils étaient, il a adressé la mise en garde, que Moïse vienne seul. Et si un homme, un animal, même il touche, il devrait être tué sur le champ. Ne pénétrez jamais derrière ce voile. Ce voile appartient à une seule personne. Ce message est un, voyez. Dans le temple, un seul homme y entrait une fois par an, loin et préparé y entrer. Pas pour ressortir avec la parole, mais pour offrir du sang. Même pour pénétrer à l'intérieur devant cela, un seul, tout autre homme mourait, voyez. Maintenant, il meurt spirituellement. Celui-ci est un voile spirituel, voyez. Celui-là était un vol naturel. Celui-ci est un voile spirituel. Il continue à entrer là-dedans sans hésiter. Vous avez beau leur dire, « Oh, je le sais, voyez-vous, allez, c'est dans l'ordre des choses, ça ne fait que monter. » Vous vous souvenez, en Égypte, la dernière plaie, c'était la mort avant l'Exode. La dernière plaie sur la terre, c'est la mort spirituelle avant l'Exode. Ensuite, ils seront incinérés, ils retourneront à la poussière et les justes marcheront sur les cendres. Mais la dernière chose, c'est la mort spirituelle, de rejeter la parole. Alors, remarquez, Dieu a adressé une mise en garde à tous de ne pas essayer de suivre Moïse à l'intérieur du voile de feu. Moïse devait être voilé, il devait en ressortir ainsi. Moïse, quand il entrait, c'était Moïse qui pénétrait dans cette colonne de feu. Et quand il ressortait, il était voilé. En effet, il était entré là-dedans, débarrassé de ses traditions, des traditions des anciens. Il avait vu la colonne de feu. Mais voici qu'il pénètre dans la colonne de feu, voyez? Amen. Et il ressort voilé. La parole de Dieu dans un homme voilé. Mais voici qu'il sort en marchant. Oh là là. Je peux le voir. Il a adressé une mise en garde que personne d'autre ne s'avise d'essayer. Personne ne peut imiter cela. Il vaudrait mieux pas, vous voyez, que ce soit même un prêtre ou un saint homme ou qui que ce soit, un cardinal, un évêque, quoi que ce soit d'autre. S'il essayait de pénétrer à l'intérieur de ce voile, il mourrait. Dieu les a mis en garde. Nous n'accepterons aucune imitation. Sa parole est révélée à un seul. Il en a toujours été ainsi. Un prophète est venu avec la parole du Seigneur dans chaque âge, à chaque fois, tout au long de l'Écriture. La parole vient à un seul. Dans chaque âge, c'est pareil, même dans les âges de l'Église, du tout premier au dernier. Les autres sont leur place, c'est vrai. Remarquez, mais tenez-vous loin de cette colonne de feu. Quelle leçon nous apprenons ici, voyez-vous? Tout le monde voulait être un Moïse et tout le monde. Vous vous souvenez de ce que Dathan et les autres ont dit là-bas? Ils ont dit, allons Moïse, attends un instant, tu en prends trop sur toi, vois-tu? Allons-y, il y a d'autres mêmes ici que Dieu a appelés. C'est vrai, chacun d'eux, ils suivaient bien tant qu'ils suivaient, mais quand l'un d'eux a essayé de s'élever et de prendre la position que Dieu avait donnée à Moïse, qui avait été prédestiné et établi pour ce travail, il a essayé de la prendre, le feu est descendu, il a ouvert la terre, les a engloutis d'un coup, voyez? Faites attention. Soyez simplement un bon chrétien de Dieu, rempli de piété, qui croit la parole, voyez. Tenez-vous loin de cette colonne de feu. Quelle leçon! D'abord, Dieu était apparu à Moïse dans un buisson ardent. Dieu était voilé dans la colonne de feu. Maintenant, soyez très attentifs là pendant un instant. D'abord, Dieu, quand il est venu à Moïse, il était voilé. Dieu était dans une colonne de feu, caché dans un buisson. Voyez-vous? Comme derrière les pots, voyez-vous? Là-bas, au propitiatoire, à l'autel, vous voyez, il était voilé. Il est toujours voilé. Et quand il est venu à Moïse, il était dans une colonne de feu, voilé dans la colonne de feu. Mais ici, devant les gens, Dieu l'a confirmé par cette même colonne de feu, vous voyez. Moïse a dit, maintenant regardez bien, est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous laissez votre pensée aller très loin? Pouvez-vous que celui qui a des oreilles entende, vous voyez? Quand Dieu est apparu à Moïse, c'était dans une colonne de feu, quand il l'a appelé à son ministère. Moïse est venu le dire aux gens. Ils ne pouvaient pas le croire. Et pourtant, il avait fait les miracles et tout, mais cette fois, c'est visiblement, scientifiquement, qu'il est apparu et qu'il a confirmé le ministère de Moïse comme quoi c'était le même Dieu qui lui avait parlé parce qu'il est paru sous la forme de la colonne de feu et a embrasé la montagne. Elle était venue à Moïse dans un buisson. Il lui avait parlé. Bien. La première fois que Dieu est apparu à Moïse, c'était dans un buisson ardent, le voile. Devant les gens, Dieu était encore voilé et il a confirmé Moïse par le voile en se voilant avec le même feu, la même colonne de feu est descendue de là, d'eux de façon qu'ils puissent seulement entendre la parole de Dieu. Vous saisissez? Seulement la parole, ils entendaient sa voix. En effet, Moïse était pour eux la parole vivante. Moïse, voyez-vous, Dieu avait tellement prouvé cette parole par Moïse. Voyez-vous, Moïse avait dit, Dieu avait dit à Moïse, « Vas-y, je serai avec toi. Rien ne te résistera, je suis celui qui suis. » Moïse est allé là-bas, il a dit, « Peut-être que vous ne le croirez pas, mais Dieu m'est apparu dans la colonne de feu, il m'a dit ces choses. » Oh. On en a des sortes d'autres, des choses semblables qui se passent. Pharaon a dit, voyons, le pasteur Pharaon a dit, eh bien, tu as un tour de magicien facile, voyons. Moi, j'ai des magiciens ici qui peuvent changer un serpent, un bâton en serpent. Venez ici, les magiciens. Ils sont venus là, ils ont fait la même chose. Moïse le savait. Rien ne l'a fait broncher. Le nombre d'imitateurs qu'ils avaient, ça ne changeait absolument rien. Moïse est resté bien tranquille. Tout à coup, ils se sont promenés en rampant pendant un bout de temps. À un moment donné, le serpent de Moïse a avalé les autres. Pourquoi? C'est comme les apôtres, ils ne pouvaient pas l'expliquer, mais ils ne savaient pas comment Dieu allait le faire, mais il allait le faire. Souvenez-vous, il a dit que Jambès et Jambrès reviendraient dans les derniers jours, voyez-vous, des imitations. Et cela séduira même les élus, si c'était possible. Matthieu 24, 24, voyez-vous? J'ai exactement la même chose qu'il ferait, le même genre de miracle et tout. Gardez l'œil sur la parole, gardez l'œil sur la parole. Un homme dit qu'il fait un miracle et qu'il veut quand même croire qu'il y a trois dieux et qu'il y a toutes ces choses-là. Éloignez-vous de ce genre-là. Nous savons que c'est faux, voyez-vous. Ce n'est pas du tout la parole, toute parole, toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans la Genèse, une seule parole ici, il est dit, ne retranchez pas et n'ajoutez pas une seule parole. Voyez-vous, il faut que ce soit cette parole telle qu'elle, voyez. Remarquez, les gens ont vu que quelque chose était arrivé. Moïse avait été voilé en tant qu'il était un prophète et Dieu avait maintenant confirmé sa parole. Il est allé là-bas, il avait vu les signes, les produits. Ensuite, bon, ces gens se sont séparés, une église. Voyez-vous, église, ça veut dire appelé à sortir. Voyez, après qu'ils ont été appelés à sortir du monde et qu'ils sont devenus un peuple, voyez-vous, alors Dieu s'est fait connaître comme quoi il était cette colonne de feu et il a prouvé le message de Moïse. Voyez, il était la colonne de feu. Peut-être qu'il aurait pu la prendre en photo, j'imagine, s'il avait eu des appareils photo, parce que c'était tout en feu. Mais ils ont prouvé que Dieu a prouvé que le message était vrai. Le message était là, tout était là, il allait bientôt partir dans l'Exode. Il a voilé son prophète pour ce peuple de l'Exode. Les gens, pensez-y, ils ont vu que quelque chose lui était arrivé. Il était maintenant différent des autres Israélites. Il était quelqu'un de différent. Son message était différent. Il était différent des sacrificateurs. Il était différent de tout. Voyez-vous, il était une personne différente. Les gens ont vu quelque chose est arrivé. Dieu s'était voilé dans son prophète pour leur adresser ses paroles. Voilà ce qu'il avait fait. Moïse était cette parole vivante pour les gens, voilée par la colonne de feu, annonçant ce qui allait être voilé plus tard derrière les peaux de l'héros. Vous voyez, la parole devait venir de Moïse d'abord. Voyez, Moïse avait la parole, elle était écrite par Dieu. Personne ne pouvait les interpréter. C'est Moïse qui devait les interpréter d'abord. C'est pour cette raison qu'il se voilait le visage, parce qu'il, le voyez-vous, il est ici. Nous pourrions la prendre, la porter et tout le reste, là, mais elle doit être révélée. Pour pouvoir révéler, Moïse devait devenir Dieu pour le peuple. Vous dites, c'est insensé. Tenez, il l'a dit, il a même dit à Moïse lui-même, « Tu seras Dieu et Aaron sera ton prophète », voyez. Alors, il est venu là, voyez-vous, il fallait qu'il se voile, parce que Dieu est toujours derrière un voile. Oh là là! Le voyez-vous? Dieu est caché du public. Il a dit, « Père, je te rends grâce. Tu l'as caché aux sages et aux intelligents, et tu l'as révélé aux petits-enfants, à ceux qui veulent apprendre. » Voyez, Dieu caché derrière le voile. Moïse se voilait le visage. Moïse était la parole vivante, voilée à cette époque-là. Les gens ont vu cette colonne de feu, ils ont dit, « Maintenant, nous sommes convaincus. » Voyez, que Moïse parle, voyez, que Dieu ne parle pas de peur que nous mourions. Moïse est entré directement dans cette colonne de feu, voyez. Et il a dit, là, il a dit, « Maintenant, je ne vais plus leur parler comme ceci, je vais leur donner un prophète. » Voyez, et c'est comme ça qu'il a toujours fait, voyez, il a dit maintenant qu'ils aillent, mais le prophète en question doit avoir cette parole. S'il est voilé par une tradition, Dieu ne l'a jamais envoyé. S'il est voilé par la parole, Dieu va le confirmer. Dieu interprète sa propre parole. Moïse les prononçait, Dieu les interprétait. Amen. Moïse disait, le Seigneur l'a dit. Et le Seigneur faisait précisément ce qu'il avait dit, ce qui prouvait que c'était vrai. Maintenant, il a dit, « Maintenant, Moïse, tu comprends, les gens comprennent maintenant. Tu vois, je t'ai présenté, je t'ai confirmé. Dieu s'était voilé dans ce prophète pour adresser sa parole aux gens. Moïse était le Dieu vivant pour eux, la parole vivante de Dieu manifestée. C'est pour cette raison que son visage était voilé. » Et savez-vous que c'est la même chose pour un chrétien véritable qui est voilé aujourd'hui aux incroyants? Ils voient ces femmes qui ont les cheveux longs et tout, ils disent que c'est, regardez-moi cette antiquité. Les femmes qui relèvent leurs cheveux en chignon, ils disent, vous avez un pneu plat, une roue de secours sur la tête, voyez-vous, c'est complètement voilé. Ils sont aveugles. Oui, ils disent, j'ai un doctorat en philosophie, mais n'importe ce que vous avez. Vous êtes quand même ignorant de la parole. Tout à fait exact. Oh, c'est juste quelque chose de secondaire. Commencez par les petites leçons. Que dire des gens qui disent qu'ils sont voilés dans la présence de Dieu et qui prêchent une tradition d'Église? Oh, miséricorde, bonté. Alors qu'on ajoute et retranche et tout le reste, qu'ils injectent leur propre sujet, leur propre pensée et non la parole de Dieu. Voyez-vous quel genre de voile c'est? Ça, c'est d'avoir un voile ecclésiastique. Dieu a complètement déchiré ce voile-là. Ils disent, les prophètes, ça n'existe pas. En ces derniers jours, Les apôtres et les prophètes, ça n'existe pas. La guérison divine, ça n'existe pas. Les voyants, ça n'existe plus. Marc 16, qui s'accomplirait maintenant, ça n'existe pas. L'âge apostolique a pris fin. Ils l'ont voilé aux gens. Mais Dieu est venu en plein là avec son Saint-Esprit de feu. Il a déchiré cette chose-là du haut en bas. Dieu a déchiré le voile. Moïse était le voile, la parole vivante de Dieu, voilée derrière une chair humaine. La colonne de feu était en Moïse, bien sûr, annonçant ce qui allait être voilé plus tard, derrière des peaux. Vous voyez? Donc là, la parole a été donnée, ensuite elle a été écrite, ensuite elle a été cachée, et elle est encore voilée, car Dieu a toujours été dans cette parole. Amen! Il est la parole toujours. Il était dans cette parole. C'est pour cette raison que cette parole devait être voilée. Ô frères, sœurs, le saisissez-vous? Regardez, ne voyez-vous pas? Elle a été voilée au long de ses âges, conformément à ce que Dieu avait dit, et elle sera dévoilée dans les derniers jours. Ses sept sceaux seraient brisés, et toute la chose serait exposée au regard des gens, ce qui s'était passé tout au long. L'heure du message du septième ange, tous les mystères de Dieu qui seraient divulgués par cet Élie en cette dernière heure, Christ qui est mis à la porte de son Église, le Fils de Dieu qui se révèle comme Fils de l'homme de nouveau, l'Église qui doit être mise en ordre et tout pour le dernier jour, sans credo, sans dénomination, seulement et strictement la parole vivant dans l'individu. J'en prendrai un, j'en laisserai un, je prendrai celui-ci, je laisserai celui-là. Il n'y a pas d'attache. Pas de dénomination, pas de servitude, ni rien, c'est le cœur attaché à Dieu et à lui seul, voyez. Remarquez, voilé dans une chair humaine, Moïse avec cette parole annonçant ce qui, plus tard, allait être mis derrière une peau de blaireau, afin que, de même, Christ est notre Moïse. Il était Dieu voilé dans une chair humaine. Voilé dans l'humanité, dans la chair. C'est exact. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il était voilé par des peaux de blaireau. Il était voilé, et cette fois, il était voilé dans un homme. Voyez? Maintenant, remarquez, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa parole qu'il avait promise pour cet âge-ci, il est encore Christ, la parole promise pour cet âge-ci, voilé dans une chair humaine. La parole est Dieu. L'onction est une personne. Le mot Christ veut dire quelqu'un qui est oint, voyez-vous? Le oint. Alors Moïse était Christ à son époque. Il était le oint. Jérémie était Christ à son époque avec une portion de la parole pour ce jour-là. Mais quand Jésus est venu, il est venu comme oint rédempteur. Et là, c'était à la fois Moïse et tout ce qui était dans Moïse et toute la parole et toute la divinité corporellement qui était en lui. C'est pour cette raison que le voile du temple s'est déchiré complètement et que le propitiatoire a été parfaitement exposé au regard. Il était le oint. Remarquez maintenant le voile de la chair humaine. La parole promise pour cet âge-ci doit aussi être voilée. Remarquez. Les pécheurs et les membres d'Église qui aiment le péché ne peuvent pas voir ce qu'il en est à cause du voile humain. C'est pour cette raison qu'ils n'ont pas pu le voir. Voyons, c'est un homme. D'où sortir? Quelle carte de membre a-t-il? De quelle Église fait-il partie? Je veux parler de ça ce soir. De quelle Église fait-il partie, voyez? Alors, voyez-vous, de quelle Église fait-il partie? De quel groupe? Quelle étude a-t-il faite? Où a-t-il eu reçu son instruction? Eh bien, cet homme est né, selon la tradition, selon la légende qui circule à son sujet ici, cet homme est né hors du mariage. Voyons. Il est du diable. Il est né hors du mariage. Joseph l'a épousé seulement pour l'empêcher d'être lapidé parce qu'elle était une femme adultère. Et cet homme-là vient nous dire quoi faire à nous, les sacrificateurs. Et Dieu était là, révélant cette parole, s'écriant, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Les cantiques même qu'ils chantaient dans le temple, ceux que David avait composés pour eux des années auparavant et qui se rapportaient à Christ. « Tous mes os me regardent, ils ont percé mes mains, mes pieds. » Ils étaient là à chanter alors que l'homme en question se mourait sur la croix. Et quand ils ont eu fini et que quand il est mort, le Dieu du ciel est descendu comme il avait fait sur le mont Sinaï avec le feu sacré et il a brûlé le voile de ce temple du haut en bas et il l'a déchiré. Et qu'est-ce qu'il pouvait faire? Regardez par la fenêtre du temple là au calvaire et Dieu était là exposé au regard de tous. Mais encore aujourd'hui, il ne voit pas ce qu'il en est. Dieu, en ce dernier jour, a déchiré ses traditions. Il a exposé la parole pour cet âge au regard de tous. Ils ne savent toujours pas ce qu'il en est. ils ne savent vraiment pas ce qu'il en est. C'est tellement simple, voyez-vous, c'est tellement simple, vraiment. C'est tellement étranger aux choses du monde. L'autre jour, je pressais une certaine réunion d'être un scindlé. Et un jour, je voudrais parler d'être un scindlé. On est tous des scindlés à cause de quelqu'un. Alors, moi, je le serai à cause de Christ. Paul disait qu'on le considérait comme un fou. C'est sûr, forcément. Voyez-vous, il faut qu'un écrou pour maintenir les choses en place. Vous voyez? C'est exact. Alors, remarquez le voile, la chair humaine. Non, donc, les gens qui aimaient le péché ne pouvaient pas voir ce qu'il en était. Ces gens religieux rattachés à leur tradition, ils ne pouvaient pas voir ce qu'il en était parce qu'il était un homme. Cette chair humaine qui cachait Dieu. Or, s'il avait été une grande colonne de feu qui serait descendue, voyez-vous, sur une grande colonne de feu était descendue, il leur avait montré ce qu'il était, qui était cette grande colonne de feu. Ça, il l'aurait peut-être cru si Jéhovah avait circulé un peu partout. Mais voyez ce qu'il a fait pour pouvoir contourner tous ces gens intelligents, ça. Il s'est simplement révélé de qui, tel qu'il l'avait promis à Moïse, voyez-vous. Je leur parlerai par un prophète. Et il était fils de l'homme, un prophète. Et certains l'ont reconnu, environ 0.1% du monde l'ont cru, les autres non. Est-ce qu'il était quand même? Mais le Dieu Tout-Puissant était là, exposé au regard de tous, le propitiatoire. Il est mort alors que ses propres enfants disaient, ses propres enfants étaient là, qu'ils disaient, nous ne voulons pas de lui, qu'il s'en aille. Ils ont craché sur lui. On type bien longtemps avant David, quand il avait quitté le temple, un roi rejeté, il descendait la rue et une espèce de petit infirme qui marchait en se traînant, qui ne l'avait jamais aimé, l'a traité de vieil hypocrite ou quelque chose comme ça. Il lui a craché en plein visage et le garde a dégainé son épée. Il a dit, je laisserai la tête de ce chien sur lui et il a craché sur mon roi. David a dit, laisse-le, c'est Dieu qui lui a dit ça. Et probablement que David ne savait pas ce qu'il disait. Il est monté sur la montagne. Et 800 ans plus tard, le fils de David gravissait la même montagne. Il regardait au loin en pleurant sur Jérusalem, un roi rejeté. Ils lui ont craché au visage. Ne voyez-vous pas? C'est la même chose. Vous voyez cette parole qui continue à s'enchaîner, qui continue à se dérouler aujourd'hui? Toujours rejeté par la majorité, voyez-vous? Et cru par la minorité. Donc, voyez-vous, il ne pouvait pas croire, car ces Grecs, ils ne pouvaient pas le voir. Il était dans son temple humain. Voyons, il disait, cet homme-là, son nom est Jésus, il vient de Nazareth. Or, à cette époque-là, les gens n'avaient qu'un nom. Par exemple, Jean, Jim, il était Jean de Jeffersonville, Jim de New Albany, ou quelque chose comme ça. Il disait, celui-ci est Jésus de Nazareth. Tout le monde dit que sa mère a été fécondée par un soldat, voyez? Et alors, c'est exactement ce qu'il croyait, certainement. Et disons, il disait là, celui-ci est Jésus de Nazareth, vous voyez? Qui est-il? Voyez-vous? Il ne pouvait pas comprendre ça. Mais tenez cette parole pour ce jour-là. Quand il prêchait, il a dit, « Sondez les Écritures. Vous pensez avoir en elles la vie éternelle et ce sont elles qui rendent témoignage de qui je suis. Si vous ne pouvez pas croire en moi, oubliez ce que je suis. Comme voile, croyez la parole qui est apportée. » Deux témoins, c'est une attestation. Il a dit, « Je parle et le Père témoigne de moi. » Amen. C'est exact. Je parle de la parole de ce jour-ci et le Père la confirme. Alors pour vous, est-ce que c'est une attestation? C'en est une, voyez-vous. C'est de cette façon qu'elle doit s'accomplir. Remarquez dans 2 Corinthiens maintenant, dans 2 Corinthiens chapitre 3 au verset 6, le vieux temple logeait Dieu, dissimulé au regard des Juifs derrière des vieilles peaux. Quand le vieux voile a été déchiré, là encore les Juifs aveuglés sur qui il était et sur qui il est encore aujourd'hui. Et puis la Pentecôte a révélé qui était le Dieu vivant et vrai quand ce voile a été coupé en deux par Dieu, à partir du jour. Pourquoi est-ce que c'est arrivé au voile? Pourquoi est-ce que c'est arrivé? Pourquoi un tel message est-il venu aujourd'hui afin de faire ce qu'il a fait? Pourquoi est-il venu? Pourquoi? Quelqu'un allait m'appeler l'autre jour, voulant contester avec moi au sujet de l'âge de l'Église, comme quoi Dieu était dans sa sainte Église et des choses semblables. Quand j'ai su que c'était une femme prédicateur, alors j'ai simplement oublié tout ça. Voyez-vous, s'il était agi d'un homme qui aurait été correct, ça aurait été différent. Mais à quoi ça sert d'aller au loin, dans un autre pays, là, alors qu'il faut que je laisse une réunion ici pour la faire, voyez-vous? Alors je les laisse simplement faire. Un aveugle conduit des aveugles et ils tombent tous dans une fosse. Alors, maintenant, dans cet âge-ci, alors que le vieux voile de la dénomination et la tradition qui couvrait la parole de Dieu a été déchiré pour qu'elle puisse être manifestée, vous voyez ce que je veux dire? La tradition dit toutes ces choses-là, celles du passé. Laissons pénétrer cela un peu. Ces choses sont du passé. Mais en ce dernier jour, ce voile de la tradition a été complètement déchiré. Et ici se tient la colonne de feu. Voyez, il est ici, en train de se manifester la parole de ce jour-ci. Le voile est déchiré. Alors le monde n'y croit toujours pas. Quoi qu'il en soit, ils ne le voient pas. Ils ne le voient pas. Ça n'a pas été envoyé pour eux. Souvenez-vous, ce n'est pas le Fils de Dieu qui a été révélé à ceux de Sodome. Ce sont deux messagers qui l'ont été, c'est exact. Mais ce Dieu lui-même, dans une chair humaine, a été révélé à Abraham, l'élu. Et regardez bien ce qu'il a fait pour se révéler. Et là, Abraham a reconnu, quand il a su que ce que Sarah avait dans sa pensée derrière lui, il a dit, il a appelé Elohim, ton serviteur. Remarquez, donc, pour qu'elle puisse être manifestée, la parole pendant toutes ces années, il y a eu un voile sur elle devant les gens, la chose n'est pas faisable. Vous vous souvenez de ma prédication de ce que j'ai prêché le matin où je suis parti la première fois au sujet de Goliath et David? J'ai dit, regardez le challenger là-bas, il a dit que les jours des miracles sont passés. Observez ses bandes, comme elles se sont enchaînées, observez chacune, comme tout cela devient de plus en plus clair. Vous avez des oreilles pour entendre, voyez, des yeux pour voir. Qu'est-ce que j'ai dit? Il y a cet imposant monde ecclésiastique là-bas, en cet âge scientifique, qui dit que la chose n'est pas faisable. Mais j'ai dit, Dieu, dans cette lumière qui n'avait jamais encore été photographiée, sauf une fois, elle n'avait encore jamais été photographiée à ce moment-là. C'était sur la rivière là-bas. Ils ne l'ont pas prise en photo, vous voyez? Il m'a dit que la chose se ferait. Il lancerait son appel. Et cela se répandrait dans toutes les nations. Mais le Dr Davis, il a dit, toi, un élève de septième année, tu n'as fait que des études primaires, que tu vas prier pour des rois et des monarques et lancer un réveil qui va se répandre dans toutes les nations. J'ai dit, c'est ce qu'il a dit. Et la chose s'est faite, voyez? Voyez, la chose s'est faite. Voilà, c'est ça. Il n'a pas besoin d'aucune interprétation. Il l'a fait, voyez-vous? Il l'a fait déjà. Ça s'interprète tout seul, voyez-vous? Appelant ses élus, voyez-vous? De tous les milieux, maintenant, c'est manifesté. J'ai dit que David, il était là, un petit maigrichon avec le dos tout courbeux. Il avait une fronde à la main, mais Saül l'a regardé, lui qui était la tête de l'association pastorale. Il a dit, mais toi, tu n'as pas même une formation. Il a dit, voyons voir si je peux te fournir un doctorat en philosophie ou quelque chose. Il l'a revêtu d'une armure. Il a constaté que ça ne convenait pas à un homme de Dieu. Il a dit, débarrassez-moi de ça. Je ne sais rien faire de ces choses-là. Laissez-moi y aller avec ce que je connais, ce quoi j'ai combattu le lion et l'ours. Il était plutôt du genre d'homme des bois. Et laissez-moi y aller comme ça. Et le vieux Goliath a dit, est-ce que vous envoyez un chien pour me combattre? Il a dit, je vais te piquer au bout de ma lance et suspendre ton cadavre là. Laissez les oiseaux te manger. David a dit, tu marches contre moi en Philistin avec une armure et une lance. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Regardez bien le prophète David, il a dit, aujourd'hui, je te couperai la tête de sur les épaules. Amen. Oh là là. Il savait ce qu'il avait, en qui il avait cru. Il avait la pleine conviction que celui-là avait la puissance de garder son dépôt, vous voyez? Quoi qu'il en soit, donc, la chose est arrivée. Le vieil adage, les jours des miracles sont passés, les murs ont été démolis. Jéhovah est toujours là, exposé au regard de tous, manifestant sa parole, celui qui est dévoilé. C'est exact, remarquez. L'Église des nations aussi, elle a été aveuglé devant ce voile, après qu'il a été déchiré, qu'il a laissé voir Dieu, le voile ecclésiastique. Comment? Ça, parce que la parole a été voilée dans l'être humain de nouveau. Voilà précisément ce qu'Israël n'est pas parvenu à voir. S'il était agi d'un ange ou quelque chose, Israël y aurait cru. Mais étant donné, ça ne pouvait pas être un ange, il fallait que ce soit un homme. Amen. Dieu ne peut pas manquer à sa parole. Dans les derniers jours, ça doit être la même chose de nouveau. Vous voyez, qu'est-ce qui a aveuglé Israël? Cet homme, toi qui es un homme, tu te fais Dieu. C'est pour ça qu'ils l'ont tué. Et aujourd'hui, parce que le message est venu par le moyen de l'homme et non des anges, vous voyez, Dieu ne peut pas changer sa manière de faire, changer sa parole. Il a dit qu'il ne changerait pas. Vous voyez, remarquez. C'était promis. Et aujourd'hui, ceux des nations sont tout aussi aveuglés qu'Israël l'a été. À cause de quoi? Du voile. Dieu voilé dans un être humain. C'est ce qui a aveuglé Israël. Remarquez. Comme toujours, l'un est aveuglé. L'un sera aveuglé par cela. L'autre, la vérité lui sera révélée par cela. Cela fermera les yeux à certains et ouvrira les yeux à l'autre. Regardez, Jésus cette année-là, il a dit, « Eh bien, ton nom est Simon. » Et le nom de ton père était Jonas. Et il a dit, Seigneur Dieu, voyez. Philippe, il a dit, d'où me connais-tu? Il a dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Il a dit, Rabbi, d'où me connais-tu? Il a dit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous l'arbre, je t'ai vu. Il a dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Eh bien, il y avait ceux qui se tenaient là, ils ont dit, c'est Belzébul, voyez. Qu'est-ce que cela a fait? Ouvert les yeux de l'un, aveuglé l'autre. Qu'est-ce que les sacrificateurs ont dit? Voyons, ce gars-là, c'est Beelzébul. La petite femme a dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le oin. Tu vois, le oin viendra. Nous n'avons pas eu de prophète. Tu dois être prophète. Mais le oin viendra. Nous l'attendons. Ce sont les derniers jours pour ceux des nations ou pour les Juifs. Et elle a dit, c'est le dernier jour. Voyez-vous, les Samaritains aussi, bien que les Juifs attendaient la venue d'un Messie. Voyez, elle a dit, c'est le moment où il doit paraître. Nous savons que quand il sera venu, il fera ces choses, il nous annoncera ces choses. Il a dit, je le suis. Ses yeux ont été ouverts. La police, les prêtres ont été aveuglés. Voilà ce que l'Évangile fait toujours. Il ouvre les yeux de certains, révèle la vérité à certains, alors qu'il aveugle les autres. Il a deux sens. Certains, en plongeant les regards dans ce Fils, vont devenir aveugles. D'autres, en le faisant, vont repartir avec lui. C'est ça la différence. Comme ça a été dans le cas de tous les âges, la divinité voilée dans une chair humaine. Remarquez, c'est ce qu'il a fait. Les prophètes, c'était la divinité voilée. Il était la parole de Dieu, pas vrai? Voilée dans une chair humaine. Alors, ils n'ont pas fait attention à notre Moïse. Non plus. Voyez-vous, Jésus, remarquez, voilé derrière les vieilles peaux de blaireau dans le vieux temple, il avait la parole manifestée sur des tables de pierre. Maintenant, je vais essayer de m'arrêter dans une vingtaine de minutes, là, si possible, pour qu'on termine à 11h30. Remarquez, si vous remarquez, j'ai tourné des pages ici, pour ne pas que j'abrège, que je sois trop long. Je sais que vous avez chaud et que vous êtes fatigué. Derrière le vieux temple, à l'intérieur du voile, qu'est-ce qu'il y avait là derrière? Jéhovah, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qui était caché là derrière? Qu'est-ce que le voile cachait? Oh, alléluia! Qu'est-ce que le voile cachait? Il cachait la parole. Le voile, les vieilles peaux de blaireau, tenaient caché la parole à leurs yeux naturels. Là derrière, il y avait aussi les pains de proposition. Là derrière, il y avait aussi la gloire de la Shekinah. Mais tout cela leur était caché. Tout cela était caché. Toute la gloire de Dieu était là, derrière cette vieille peau de blaireau. C'est exact. Tout cela caché à l'œil naturel. C'est pareil aujourd'hui. On les traite de bande d'exaltés, de fanatiques. Mais ils ne savent pas ce qui se cache derrière. Voilà ce qu'ils ne savent pas. Voyez, alors quand Dieu, dans sa miséricorde, a déchiré le voile pour qu'ils puissent voir, ils étaient tellement absorbés dans leur tradition que c'était encore caché pour eux et ça l'est encore aujourd'hui. C'est pareil maintenant. La gloire, la puissance du Saint-Esprit, la gloire de la Shekinah qui vient sur le croyant. Je parle du vrai croyant, là, qui produit les œuvres de Dieu et qui fait entrer en lui la foi pour qu'il croie la parole de Dieu. Tout ça, c'est caché aux yeux de ces gens-là. Ils disent, ces choses-là, c'est du passé. Vous voyez, ils vivent encore derrière le voile. Vous n'êtes plus derrière ce voile, petits-enfants. Dieu est exposé à la vue de tous. L'autre jour, frère Fred Sutman, frère Tom Simpson, je ne sais pas s'il a fini par arriver ou pas, nous étions plusieurs, une église baptiste, et le prédicateur a dit quelque chose qui sonnait assez bien. Nous avons tous dit « Amen ». Tout le monde dans l'église, le cou tendu, ils ont regardé en arrière, vous voyez. Nous avions trouvé une miette qui venait derrière la Shekinah, là, vous savez. Et nous étions pas mal contents de l'avoir eue. Nous avons dit en d'autres termes « Merci Seigneur », vous voyez. Et à ce moment-là, ces gens-là étaient tellement voilés qu'ils se sont contentés d'en rire. Ils ne savaient pas du tout ce qu'il en était, voilés. Ils sont encore voilés. Donc, certains encore à l'intérieur, certains sont à l'extérieur. Mais Dieu est à la vue de nous, tous cachés. C'est pareil maintenant. Et alors, quand Dieu, dans sa miséricorde, a déchiré le voile, il a été exposé au regard de tous. Mais il était tellement absorbé par leur tradition qu'il était encore caché à leurs yeux. C'est pareil maintenant. Toute cette gloire cachée est cachée pour nous en Christ, la parole qui est notre temple. Oh, maintenant, je vais être obligé de creuser un peu ici. Pardonnez-moi tant d'émotions ce matin, mais oui, il y avait si longtemps que j'avais à cœur d'apporter ceci, que ça brûle au-dedans de moi, vous voyez. Remarquez, toute la gloire qui est en Dieu est dans la parole. Toutes les bénédictions qui sont en Dieu sont dans la parole. C'est caché à l'incroyant par les traditions. Vous voyez ce que je veux dire? Mais tout cela est en Christ. Tout ce que Dieu était, il s'est déversé. Kenos, il est entré en Christ. Et nous, en Christ, nous sommes derrière le voile. Eh bien, je suis en Christ, vous dites. Et ensuite, vous croyez qu'il y a trois dieux? Vous baptisez au nom de Père, Fils, Saint-Esprit? Vous croyez à toutes ces traditions, toutes ces croyances que vous avez, les anciens? Non, vous êtes encore derrière le voile, voyez. entrer à l'intérieur du voile. Lui, Christ, est la parole. Comment? Je ne crois pas à la guérison divine, je ne crois pas à ces miracles ou aux choses comme celle-là. Eh bien, voyez, vous n'êtes pas à l'intérieur du voile. Vous n'en connaissez rien, voyez. Christ est la parole. Et quand nous sommes dans la parole, nous sommes en Christ. Et comment est-ce que je peux être en Christ et nier Christ? C'est lui qui a dit, pas une seule parole n'y sera ajoutée, ni en sera retranchée. Alors comment pouvez-vous retrancher et ajouter? Voyez-vous, ça vous montre quel est le voile qui vous couvre. Voyez, nous en lui, ensuite nous, en étant en lui, là encore, nous sommes voilés aux gens religieux et aux professeurs de ce monde. Voyez-vous, notre gloire que nous avons et que nous apprécions, là encore, nous sommes voilés à ceux de l'extérieur. Ils pensent que nous sommes fous, encore se cingler, voyez? C'est exact. Mais nous qui sommes à l'intérieur, ici, en Christ, entrés en lui par le baptême, 1 Corinthiens 12, entrés en lui, nous sommes participants de cette gloire, voyez? Mais pas quand on est à l'extérieur. Vous regardez encore à l'intérieur, tout en niant cela, voyez? Donc maintenant, nous sommes invités à entrer en lui pour être participants de tout ce qu'il est. Nous sommes invités à entrer en lui. Et la chose est cachée aux incroyants par le voile de la chair humaine. Voyez, ils connaissent cette gloire, ils en lisent ce qui en est dit, c'est dans la parole ici, la gloire de Dieu, et ainsi de suite. Pour eux, ce n'est qu'une parole, pour nous, c'est une manifestation. Voyez, ce n'est plus une parole, c'est une réalité. Amen. Dieu a dit que la lumière soit, ça c'était la parole, mais maintenant la lumière est là. Ce n'est pas la parole, c'est la lumière. Voyez ce que je veux dire? Alors pour nous, ce n'est pas seulement une parole écrite, c'est une réalité. Nous sommes en lui. Maintenant, nous en bénéficions. Maintenant, nous le contemplons. Maintenant, nous le voyons, la parole. Il se manifeste. C'est caché à ceux de l'extérieur. Pourquoi? Parce que c'est voilé dans la chair humaine, voyez? Oh, ils disent, cette bande de gens-là, où sont-ils à l'école? Qu'est-ce qu'ils ont comme instruction? D'où ils sortent? De quel groupe font-ils partie, voyez? Ah, voyez, ils ne saisissent pas. Un homme disait à un autre homme l'autre jour, il disait, pour être un chrétien, vous devez faire partie d'une dénomination. Il a dit, je suis un chrétien, je ne fais partie d'aucune d'entre elles. Il a dit, Dieu m'a débarrassé d'un cancer. Il a dit, maintenant, qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est un médecin. Il a dit, montrez-moi quelle dénomination arrive à faire ça, voyez? C'est encore voilé. Nous sommes à l'intérieur de Christ. Maintenant, comme à cette époque-là, tous les vrais croyants le voient. Lui, la parole promise de ce jour, manifestée ouvertement. C'est une grande déclaration, si vous pouvez le saisir, voyez? Voyez, tous les vrais croyants qui sont dans la parole voient Dieu ouvertement. Le voile est déchiré. Et Dieu se tient là, ouvertement, devant vous, manifesté. Voyez? Dieu manifesté ouvertement. Pour ce faire, le vieux voile de tradition de nos dénominations doit être déchiré de nouveau. Pour pouvoir réellement voir ce qu'il en est, vous devez sortir du milieu de ces choses-là, voyez? Vous n'y arriverez jamais. Ils tireront ce voile devant vous constamment à chaque fois. Oh, il n'y a rien de vrai là-dedans, mais c'est écrit ici. Il s'est manifesté ici, voyez? Maintenant, que dire d'un homme qui refuse de voir le soleil, qui dirait, « Oh, je sais que Dieu a dit là que la lumière soit, mais ça n'existe pas. Je vais descendre au sous-sol. Je refuse carrément de le voir. Ce gars-là est fou. Il y a quelque chose qui cloche chez lui. Il y a quelque chose qui cloche chez un homme ou une femme qui peut voir la promesse de Dieu et l'avoir manifestée et qui refuse ensuite de la croire parce que la dénomination fait descendre le voile. Voyez, voilà, pour ce faire, les voiles de la tradition de nos dénominations doivent être brisées par l'esprit de feu de Dieu et son épée qui est sa parole. Sa parole est toujours son épée, voyez. Ce jour-là, il a pris son épée tout enflammée, il a déchiré le voile du haut en bas, il a fait la même chose avec la même épée aujourd'hui. Non pas mon credo, mon livre de credo, mon catéchisme, mais l'épée du Seigneur, voyez-vous, il déchire le voile en deux, et vous voyez Dieu exposé à tous les regards, manifesté dans sa parole. Quel spectacle glorieux à contempler, voyez. Bien, le Saint-Esprit de Dieu et le feu, son épée déchire le voile, la parole déchire le voile dénominationnel. Eh bien, si vous prononcez seulement la parole et que la parole n'a aucun effet, à quoi ça servirait d'avoir l'épée ici et dire « Elle ne peut pas déchirer », dire « Ah, et que ça ne déchire pas. » Mais quand vous posez cette épée de Dieu là-haut, regardez-la déchirer. Elle est tenue par une main qui a été établie et envoyée pour faire ça. Voyez-vous, elle déchire le voile en deux et voilà, il est là. Là, on peut voir Dieu clairement exposé au regard, le grand Jéhovah. C'est sa parole manifestée, la portion qui est promise pour le jour en question. Est-ce que vous saisissez? Voyez, quand l'épée, ce qui est promis pour aujourd'hui, ce qui doit arriver en ce jour-ci, que Dieu prend son épée et qu'il déchire le voile dénominationnel en deux et l'ouvre et qu'il se manifeste et montre qui il est. Toujours cette même colonne de feu, remarquez, ça c'est les paroles manifestées pour les promesses d'aujourd'hui. Nous le voyons comme Pierre quand il a dit, « Seigneur, à qui irions-nous après avoir vu ceci? Où irions-nous? À quelle église pourrions-nous adhérer une fois que nous sommes entrés dans celle-ci par la naissance? » Voyez, à quelle dénomination pourriez-vous adhérer après avoir connu ces vérités? Voyez-vous, alors que toutes elles les nient, toutes, je n'en connais pas une seule qui dira ou fera quoi que ce soit pour appuyer ceci, exact. Quand j'ai commencé à faire ce voyage ici, 42 églises avaient parrainé réunion dans une région, et quand je suis arrivé, je n'en avais plus une seule. Ils ont dit, ils croient à la sécurité éternelle, ce qui exclut les légalistes. Ils baptisent au nom de Jésus, ce qui exclut tous les autres, voyez. L'une d'elles a dit, ils croient à la semence du serpent. Le serpent n'a pas de semence. Ce qui, la Bible dit, je mettrai inimitié entre sa semence et la semence du serpent, voyez. Le voile a été levé sur la parole, voyez. C'est exact. C'est révélé aux petits-enfants. Le voile est levé. Il voit ce qu'il en est et ce sera comme ce qui a été dit une fois. C'est exact. Alors, ce sera comme ce qui a été dit une fois. Quand vous voyez, quand ce voile est ôté de sur la parole, que les traditions sont ôtées de sur la parole, comme Jésus l'a dit une fois, quand vous me voyez, vous voyez le Père, voyez. Dieu et sa parole sont un. Maintenant, vous comprenez? Quand la parole est manifestée, qu'est-ce que c'est? Jésus a dit, « Sondez les Écritures, vous pensez avoir. Vous avez cru en Dieu, croyez aussi en moi. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. Mais si je les fais, ces œuvres, moi et mon Père, nous sommes un. Quand vous me voyez, vous avez vu le Père. Et quand vous voyez la parole manifestée, vous voyez le Père. Dieu, parce que la parole est le Père, la parole est Dieu. Et la parole manifestée, c'est Dieu lui-même qui prend sa propre parole et qui la manifeste parmi les croyants. Il n'y a que les croyants qui peuvent la faire vivre, uniquement les croyants. » Vous pouvez prendre du blé et le planter dans une sorte de terre, il ne poussera jamais. Mais ce qu'il y a, il faut qu'il y ait certains engrais dans le sol pour cultiver du blé. Et s'il n'y a pas de, si l'engrais dans ce sol n'est pas que ce blé n'a pas été fécondé pour réagir à cet engrais, il ne poussera jamais. Alors où que la parole tombe, et elle ne tombe pas dans un cœur bien disposé. Jésus l'a dit, une partie tomba le long du chemin, dans les endroits pierreux, et les oiseaux du ciel vinrent et la mangèrent. Ensuite, il a dit, une partie tomba parmi les épines et les chardons, lesquels montèrent et l'étouffèrent aussitôt. Les traditions, les dénominations, les soucis du monde l'ont étouffé, mais il a dit, une partie tomba dans la bonne terre et produisa au centuple. Il a dit, ça, c'est le royaume de Dieu. C'est la même chose, voyez-vous. Certains ne croiront pas du tout. Certains croiront pendant un petit moment comme les disciples. Et ils l'ont suivi, beaucoup d'entre eux. Les 70 l'ont suivi pendant des années pour voir ce qu'il en était. Environ un an et demi ou deux ans juste pour voir ce qu'il en était, jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose en lui, au moyen qu'il aurait eu un pouvoir pour faire quelque chose, ou comme une patte de lapin de magicien quelconque, ce qu'il pouvait faire pour produire ces choses. Comment il pouvait savoir qu'il y avait dans le cœur des gens et ce qu'ils pensaient? Ils ont fini par découvrir qu'il avait dit qu'il était descendu du ciel, qu'il était lui-même la parole, et à ce moment-là, ça, c'était trop fort pour eux. Ils ont dit, personne ne peut comprendre ça. Ils se sont éloignés de lui. Voilà ceux qui sont tombés par les épines. Et on en revient à la même chose. Dans chaque assemblée, il y a des soi-disant croyants, des incroyants et des croyants. C'est ce qu'il y a toujours eu dans chaque assemblée. C'est ce qu'on trouve tout le temps. C'est faux semblant d'être des croyants. Ça, c'est la pire catégorie. Et puis, il y a ceux qui sont réellement des incroyants. Lui, il ne vous causera pas d'ennui. Il va simplement s'en aller en secouant la tête. Mais ceux qui font semblant de croire, qui disent être croyants, c'est cette espèce-là qu'il faut surveiller. C'est soi-disant croyants. Et puis, il y a les croyants véritables. Vous voyez les trois? Il y avait des incroyants dès qu'il avait dit manger la chair du Fils de l'homme. Oh, mon vieux, ça s'était classé. Les autres, c'était des soi-disant croyants. Ils sont restés jusqu'à ce que, comme Judas l'a fait, jusqu'à toute fin. Par contre, les vrais croyants, eux, ils ne pouvaient pas l'expliquer, mais ils le croyaient quand même. Ils ont continué jusqu'au bout. Le voile de tradition des incroyants ôté, vous voyez Dieu. Quand le voile des traditions a été retiré, vous pouvez voir que Dieu est encore Dieu de sa parole. Il tient encore sa parole. Il est le Dieu, auteur de sa parole. Il est caché aux autres, derrière des voiles de peau. Oui, c'est exact. Pour ceux qui ne peuvent pas pénétrer derrière le voile, il est encore derrière les voiles de peau. Remarquez, alors nous devenons une partie de lui, puisque vous êtes le voile qui le couvre. Vous êtes une partie de lui, pourvu que Christ soit en vous. Comme Christ était de Dieu, parce que Dieu était en lui, c'est ce qui faisait qu'il était Dieu. Et alors que Christ est en vous, l'espérance de la gloire, vous devenez une partie de Christ. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, voyez. Vous devenez une partie de Christ pourvu que Christ soit caché en vous. À ce moment-là, c'est voilé à l'incroyant. Mais vous savez qu'il est en vous. Vous êtes le temple de Christ qui est derrière le voile, la peau. Alors nous, derrière, à cause de ce voile, encore ce voile de la chair humaine qui cache Dieu, la parole à l'incroyant, comme il est écrit. Vous voyez, écrit, vous êtes des épîtres écrites, dit la Bible. Or, une épître, qu'est-ce que c'est? C'est une parole écrite. Ou vous êtes les épîtres écrites. Autrement dit, on le lirait comme ceci. Vous, ce qui est dit, vous êtes des épîtres écrites. Ou vous êtes la parole qui a été écrite, manifestée. On ne peut rien y ajouter. On ne peut pas dire, je suis une épître écrite tout en vivant d'une autre manière, autre que ceci, ce qui a déjà été écrit, parce qu'on ne peut rien y ajouter, ni rien y retrancher. Comme le docteur Livaire est en train d'écrire ce fameux livre, je veux que vous voyez ça à un moment donné. Frère Veil est ici, sur les lieux quelque part. Je l'ai vu dehors. Je ne pense pas qu'il a pu entrer, mais il est en train d'écrire un livre, là. C'est très impressionnant. Sur l'âge de l'Odyssée, et je veux qu'il sera publié sous peu. Donc, nous en sommes la dernière correction d'épreuve et nous écrivons en discutant. Tout le monde vient toujours me voir en disant, Frère Branham, c'est sept tonnerres quand la voix a tonné et qu'il a dit, ne l'écris pas, tu vois, mais celle-là, ils disent ça, ce sera sept tonnerres qui seront révélés dans les derniers jours, voyez-vous, sept tonnerres qui vont nous faire savoir ce qu'il en est, n'est-ce pas que ça sonne vraiment bien, voyez, mais regardez ce que vous avancez quand vous dites ça. Il a dit, garde-toi de l'écrire, voyez, c'est sept tonnerres, il faut entendre leur voix, voyez-vous. Et il a dit, ne l'écris pas, vois-tu, mais cela doit être scellé dans le livre jusqu'au dernier jour. Or, quelqu'un, bien des gens m'ont dit, des théologiens m'ont dit, Frère Branham, si le Seigneur Dieu, ils ont dit, si avec votre expérience que le Seigneur vous a donnée pour son peuple, je dis ceci humblement, ils ont dit, vous seriez en mesure d'écrire vous-même une Bible, votre parole, si Dieu l'a manifestée. J'ai dit, c'est peut-être vrai. Voyez-vous, il essayait de me prendre au piège, voyez. Mais voyez-vous, je ne pourrais pas faire ça. Il a dit, pourquoi pas, vous remplissez toutes les conditions. J'ai dit, mais regardez bien, pas une seule parole ne peut être ajoutée ni retranchée, voyez. Il a dit, bien alors, c'est cet honneur, voyez. Il a dit, c'est sept tonnerres qui vont retentir. Est-ce que ce ne sera pas une révélation qui sera donnée à un homme? J'ai dit non, monsieur. Ce serait d'y ajouter quelque chose, d'en retrancher quelque chose. Tout est révélé là-dedans. Ce sont les sept sceaux qui ont ouvert la révélation de ce que c'était. Voyez-vous? C'est encore dans la parole. Vous voyez? On ne peut pas en sortir de cette parole. Ça ne s'écartera pas de la parole. Et l'Esprit de Dieu ne s'écartera jamais de cette parole. Il s'en tiendra strictement à la parole, aveuglant les uns et ouvrant les yeux des autres. Elle le fera toujours. Vous êtes des épîtres écrites, lues de tous les hommes, ou vous êtes. Je traduis cela, formulez comme ceci. Voyez-vous, formulez-le autrement, simplement. Vous êtes des épîtres qui ont été écrites parce qu'on ne peut rien y ajouter, qui sont lues de tous les hommes. La parole de Dieu manifestée, en d'autres termes. Pierre et Jean, pour vous montrer, quand ils sont allés là-bas, on a vu que c'était des hommes illettrés, du commun, qui n'avaient pas d'instruction, mais on les a reconnus pour avoir été avec Jésus. Voyez, ils étaient illettrés, du commun, mais ils étaient des épîtres écrites. Voyez-vous, lu comme quoi il avait été avec Jésus. En effet, Jésus se manifesta à travers eux, Christ voilé dans leur chair, manifesté, vivifié, comme il l'était dans Moïse. Quand la parole était dans Moïse, il était Dieu en chair. Quand il était dans Jésus, c'était Dieu en chair. Voyez, tout ce qu'il a fait, c'est de changer son masque. Pas sa parole, pas sa nature, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a seulement changé de forme. Il est passé de Noé à Moïse. Il est passé de Moïse à David, de David, Joseph, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il en vienne à la plénitude de la divinité corporellement. Vous voyez, c'est encore le même Dieu. Amen. Amen. J'espère que ceci est reçu, vous voyez. C'est le même Dieu. Mais il revêt un autre voile, c'est tout. Voyez-vous, il met un autre voile. Il l'a fait chez les réformateurs. Il a revêtu un voile. revêtus un voile jusqu'à ce que finalement, après avoir traversé l'âge de Luther, traversé l'autre âge, finalement, ce qui émerge, c'est la totalité. Juste avant cela, un prophète apparaît de nouveau. Ça, c'est pour préfigurer la parole, en montrant ce qu'il en a été, en révélant ce qui a été fait, ce qui a été laissé en suspens pour que l'Église soit pas sans comprendre. Quand ceci disparaît peu à peu, alors, comme Jean l'a dit, il faut que je diminue, il faut qu'il croisse, alors tout en tout, entre en lui. Il est pleinement manifesté. Il est passé de Luther à Wesley, l'âge pentecôtiste, et de l'un à l'autre, Il est pleinement manifesté. Vous voyez l'enchaînement, simplement la manifestation, Dieu qui se dévoile. Voyez-le, maintenant remarqué entièrement, réalisé dans les promesses qu'il avait faites pour ce jour-ci, comme il en avait été des autres. Or, Moïse était la parole en ce jour-là, parce que la parole lui a été donnée pour ce jour-là. Moïse, Joseph était la parole à son époque. Il était à l'image de Christ, tout à fait, voyez-vous. Chacun d'eux était la parole, et quand Jésus est venu, il était la parole dans sa plénitude, parce que tout le plan de la rédemption reposait en lui. Tout le plan de la rédemption ne reposait pas en Moïse, ne reposait pas en Joseph, ne reposait pas en Élie. Voyez-vous, eux, ils étaient seulement une partie de la parole. Ils annonçaient ce qui allait venir. Voyez? Maintenant, remarquez. Gardez cette pensée en tête. Là, je vais lancer quelque chose, comme je dis. Voyez-vous, tout le plan n'était pas en eux. Ils annonçaient ce qui allait venir. Par conséquent, après lui, la plénitude, nous ne devons pas annoncer autre chose à venir. Il s'agit d'annoncer celui qui est déjà venu, la parole. Ceci est la révélation complète. On ne peut rien y ajouter, ni rien retrancher. Voilà la révélation complète. Tout cela, c'était une ombre de celui qui allait venir. Mais quand il est venu, il était le parfait. Hébreux 1, Dieu à plusieurs reprises a parlé au Père par les prophètes. Dieu a parlé à travers des voiles, les prophètes. Mais en ces derniers jours, par son Fils Jésus-Christ, voilà, dévoilé, là au calvaire, le Fils de Dieu dévoilé, remarqué, vivifié. Et aujourd'hui, quand la parole est manifestée dans des vases humains, des voiles, il s'agit absolument de la parole qui s'accomplit dans ce jour-là, ce qui correspond à Dieu. En entrant en lui par le baptême conformément à 1 Corinthiens 12, nous sommes alors identifiés avec lui. Amen. J'avais dit une demi-heure, mais est-ce que je pourrais avoir un petit peu plus de temps? Voyez, regardez, je ne peux vraiment pas laisser passer ce point-ci. Remarquez, identifié avec lui. Maintenant, remarquez. Combien y a-t-il de citoyens américains ici? Levez la main. Bien, vous êtes un citoyen américain. Alors, vous êtes identifié avec cette nation. Tout ce que cette nation est, vous devez l'être. Pas vrai? Vous êtes toute sa gloire et vous êtes toute sa honte. Vous êtes identifié avec elle. Vous êtes américain, alors vous prenez l'identité de l'Amérique. Alléluia! J'étais avec George Washington quand il a traversé le Delaware. Je suis identifié avec lui, c'est exact. J'étais avec Abraham Lincoln quand il a prononcé son discours à Gettysburg. J'y étais. J'étais avec les soldats sur Guam, vous les gars, quand vous avez hissé ce drapeau. J'y étais, je suis américain. Je suis identifié avec ça. Amen. Maintenant, à titre d'Américain, quelle qu'ait été sa honte pendant la Révolution, je la porte. Parce que je suis américain, c'est exact. Et à titre de chrétien, je suis identifié avec lui. Amen. J'étais avec Noé quand il est entré dans l'arche. J'étais avec Moïse quand il est sorti de l'Égypte. Amen. J'étais avec Élie sur la montagne du Carmel. Oui, monsieur. Gloire à Dieu. J'étais avec lui quand il a fait ça. Assurément, j'étais avec lui. Je me suis identifié dans sa mort là-bas au calvaire. Quand je suis mort aux choses du monde, à moi-même et à toutes les traditions, j'étais identifié avec lui. J'étais identifié avec lui le matin de Pâques quand il est ressuscité des morts. J'étais identifié avec lui le jour de la Pentecôte quand le Saint-Esprit est descendu comme un vent impétueux. J'étais identifié avec lui. Tout ce qu'il était, je le suis. Tout ce que je suis, il a été. Amen. Par notre mort en lui, nous sommes identifiés avec lui. Ce qu'il est, je le suis. Amen. Ce que cette nation est, je le suis. Je suis fier de l'être. Je suis prêt à porter sa honte. Je suis prêt à porter l'opprobre pour être américain. C'est exact. Et je suis doublement prêt à le faire pour Jésus-Christ. Tout ce qu'il a jamais été, je le suis. J'aime être identifié avec lui. Ces apôtres, quand ils sont revenus, ils trouvaient, on s'était moqué d'eux, on les avait traités de tous les noms. Ils trouvaient que c'était un grand honneur de porter l'opprobre de son nom. Je suis heureux aujourd'hui d'être l'un d'eux, identifié avec la parole qui est Christ, identifié avec lui. En lui, par le baptême, nous sommes alors identifiés, identifiés à sa ressemblance, identifiés avec sa parole qui est lui-même. Je suis en Christ, je suis sa parole, car il est la parole, et ce qu'il est, je le suis. Amen. Est-ce que vous saisissez? Bien. La parole manifestée ou révélée par la révélation qui s'y trouve, alors qu'est-ce que cela fait de moi? S'il est cette gloire de la Shekinah, j'en suis une partie. Amen. Oh, amen. C'est exact. La parole elle-même révélée qui se révèle. Pensez-y, les mystères de Dieu qui se font connaître à nous en ce jour-ci par le même messager céleste qui s'est fait connaître à eux en ces jours-là. Remarquez, la même colonne de feu qui a envoyé Moïse, la même colonne de feu qui était sur Moïse, lequel a écrit la Bible, la même colonne de feu que Paul a rencontrée quand il était en route vers Damas, et Paul a écrit le Nouveau Testament. Souvenez-vous, Matthieu, Marc, Luc et Jean, ils ont seulement écrit ce qu'ils ont vu, mais Paul a eu la révélation. Il a fait ressortir, car il avait rencontré la colonne de feu lui-même. Et pensez-y, là, Joseph, là, tous les autres ont écrit ce qui s'était passé. Chacun a écrit à l'époque. Mais quand Moïse est venu, il avait la révélation. Il avait rencontré la colonne de feu. Et il a été révélé à Moïse ce qu'il en était de la Genèse. Il a écrit les quatre premiers livres de la Bible. Moïse l'a fait, pas vrai? En effet, il avait rencontré Dieu sous la forme de la colonne de feu, voilé dans la colonne de feu. Quand Paul l'a rencontré en route, les disciples ont seulement écrit ce qu'ils ont vu le faire, mais Moïse a eu la révélation. Il est allé en Égypte, il est resté 3 ans pour étudier. Il a vu que le Dieu de l'Ancien Testament était le Jésus du Nouveau. La révélation, je n'ai pas désobéi à la vision céleste, c'est exact, exact. Et pensez-y, la même colonne de feu qui est descendue sur ces hommes qui ont écrit la Bible, c'est la même colonne de feu qui est ici aujourd'hui en train d'interpréter la Bible. Amen. Comme nous l'en remercions, la même. Quelle consolation, quelle identification. Je suis tellement heureux d'être identifié à cela. Je ne sais pas quoi faire. Je préfère être identifié à cela plutôt qu'avoir tous les baptistes, méthodistes, presbytériens, luthériens, tous les autres identifiés à cette parole où se trouve la gloire de la Shekinah et la révélation. La colonne de feu qui apparaît visiblement au milieu de nous, identifiant le message comme vrai, tout comme il l'avait fait sur le mont Sinaï. Souvenez-vous, avant que le message véritable soit apporté, Moïse avait prêché, il les avait conduits hors d'Égypte. Mais là, avant que le vrai commandement soit prescrit, que les sceaux soient apportés, Dieu descendu devant les gens et il a prouvé que Moïse avait été envoyé par lui, pas vrai? Dans une colonne de feu que Moïse avait dit avoir vu dans un buisson et qui lui avait parlé. Oh, en ces derniers jours, de voir cette même colonne de feu en plein là, au milieu de nous, qui prononce la même parole, non seulement ça, mais qui l'interprète en la manifestant et en prouvant qu'elle est la vérité. Donc, il n'y a aucun moyen pour les gens de ne pas croire, à moins que ce soit volontairement qu'ils veuillent le faire. Et dans ce cas, pour celui qui pèche volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Remarquez, la même colonne de feu qui a été envoyée à Moïse et à Paul, lesquels ont écrit la Bible, est maintenant envoyée pour la révéler. La grâce de Dieu, le Dieu immuable qui accomplit les promesses de Matthieu 28. Voici, je suis avec vous toujours, qui accomplit Jean 14, 12. Vous ferez aussi les œuvres que je fais. Qui accomplit Luc 17, 28, 29. Dans les derniers jours, le Fils de l'homme sera révélé. Voyez, voyez. Malachi 4, voici, je vous envoie Élie, le prophète, qui ramènera la foi des gens à la parole originelle. Voyez, voyez, il est mort pour se révéler à nous. Maintenant, mourons à nous-mêmes pour le révéler aux autres. Mourons aux traditions et tout pour le révéler à l'autre. Mourons aux dénominations pour le révéler aux autres. Remarquez, le vieux temple refermait la gloire de la Shekinah et la lumière de la Shekinah était sur la parole. La parole est une semence. Elle a produit des pains de proposition destinés uniquement aux croyants. Le sang aussi était sur l'alliance et le sang, c'est l'eau. l'eau qui donne la vie au grain, au blé, à la semence, qui est la parole. Comme Jésus l'a dit, de même que Moïse éleva le serpent des reins, il a aussi dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, quiconque croit en lui ne périra pas. Moïse a frappé le rocher dans le désert pour sauver un peuple qui périssait ou pour faire jaillir l'eau. Dieu a frappé Jésus pour faire jaillir de lui l'Esprit pour un peuple qui périssait. Le sang est sorti de lui, c'est-à-dire l'eau de la purification par la parole, et l'eau donne la vie à la semence, et c'est ce qui a fait jaillir la gloire de la Shekinah, laquelle a brillé sur la parole, ce qui a produit les pains de proposition, et les pains de proposition, c'était seulement pour un peuple choisi. Oui, pas vrai? Maintenant, en pénétrant à l'intérieur du voile, de l'autre côté du voile, dans sa présence, où se trouve la parole, pas le credo, la parole, là, de voir la gloire de la Shekinah, la puissance, le Saint-Esprit, qui brille sur la parole, qui produit la promesse, c'est ce qui indique que vous êtes derrière le voile. Amen! J'ai franchi les voiles déchirés là où la gloire est intarissable. Alléluia, alléluia. Je vis dans la présence du roi. J'ai franchi les voiles déchirés, là où la gloire est intarissable. Je vis dans la présence du roi. La vieille peau de blaireau, les dénominations, elles ont été démolies. J'ai pénétré de l'autre côté dans la gloire de la Shekinah et je vois la parole. Je vois la colonne de feu qui se déplace. Je vois la parole manifestée. Je vois se développer ce qu'il avait dit qu'il ferait dans ses derniers jours. Je vois les enfants qui mangent ce pain de la Shekinah produit par le mûrissement de cette parole qui y croit. Amen. Quelle heure merveilleuse que celle où nous vivons. Voyez-vous, la Shekinah était sur la parole et en dessous, il y avait le pain. Il y avait le sang aspergé, ce qui lui donne de l'eau. L'Esprit donne la vie à la parole. Et combien ont lu, entendu la bande, le procès? Beaucoup d'entre vous, je pense. Voyez là, cette parole doit se développer. Pour pouvoir se développer, elle doit être dans la bonne sorte de terre. Et voyez, et Dieu fait une promesse. Quand elle touche le cœur, elle ne peut pas faillir. Noé a attendu 120 ans. Abraham a attendu 25 ans, la venue de l'enfant. Dieu l'avait dit, alors c'était réglé. Voyez, qu'est-ce que c'est? La parole était là, arrosée par la foi, d'y croire. C'est ce qui a produit les résultats. C'est ce qui a produit un fils. C'est ce qui a produit la pluie. C'est ce qui a produit le déluge. C'est ce qui a produit la vierge qui a conçu. Un prophète avait dit, une vierge concevra. Sans doute que toutes les jeunes filles ont préparé leurs vêtements de bébé. Eh bien, ce prophète Ésaïe, c'était un prophète identifié, confirmé par Dieu. Et le Seigneur avait dit, une vierge concevra. Je vais leur donner un signe surnaturel, un grand signe, une vierge concevra. Là, tous ces gens, ces croyants, ils étaient exactement comme vous. Ils ont entendu ce prophète dire ça. Alors, toutes les jeunes filles, tous les hommes disaient, ce sera ma fille. Oui, monsieur, tous ils sont allés acheter des chaussons et des couches et tout. Ils se sont préparés parce qu'ils savaient qu'elles auraient le bébé. Cette génération-là a passé, ils se sont dit, ce prophète identifié et confirmé par Dieu, comment aurait-il pu dire quoi que ce soit qui soit faux? Il faut qu'il en soit ainsi. C'est arrivé 800 ans plus tard, mais elle a mis le bébé au monde. Les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Il arrivera au dernier jour, dit Dieu, voyez-vous, nous y sommes, la lumière sur la parole. De même que la lumière du soleil transforme la semence de gloire en gloire, nous aussi, nous sommes devenus, nous devenons de plus en plus semblables à lui, alors que nous vivons dans sa présence, semblables à lui, en devenant conformes à son image bénie, alors que nous marchons avec lui. Observez ce que fait le soleil. Vous plantez une semence. Qu'est-ce qui arrive? La semence pourrit. À l'intérieur de la semence, il y a une vie. La vie émerge et elle produit la tige. Or, elle ne ressemble pas à ce qu'il y avait au début. Ça, c'est Luther. C'est une tige. Très bien. La tige a poussé et tout à coup, elle produit les graines. Voyez-vous? Ça, c'était le réveil wesleyen. Ça n'était pas comme l'autre. Ensuite, il y a eu le réveil pentecôtiste, voyez-vous, qui a produit le baptême du Saint-Esprit. Très bien. Et qu'est-ce qui s'est passé? On se retrouve avec des champignons sur l'épi, l'apparence comme à clocher. Cette chose-ci, cette chose-là ne se ressemble pas à la parole. Ce n'est pas comme le reste de la parole. Ce n'est pas comme le grain original qui a été mis en terre. Mais Dieu est encore là pour produire cela quand même. Remarquez ce qui s'est produit. Elle finit par reprendre de nouveau la forme de la semence originelle. Alors que Dieu est venu sous la forme de Martin Luther, qu'il est venu sous la forme de John Wesley, qu'il est venu sous la forme de la Pentecôte, qu'il doit se révéler de nouveau comme cette même semence qui avait été mise en terre, le Fils de l'homme. Il s'est révélé comme le Fils de Dieu au long des âges et tiges. Mais en ce dernier jour, il doit se révéler de nouveau comme Fils de l'homme. Vous saisissez? Très bien. Comme au commencement, façonné. Et qu'est-ce qui pousse au bout de la tige? Il y a une croissance continuelle, la petite tige pousse, mais elle n'est toujours pas comme le grain originel. Le message de Luther non plus. Les autres messages sont venus, Finney, Sankey, Knox, Calvin, et ainsi de suite. Aucun de ceux-là, ils étaient quand même le message, mais ce qu'il y a, c'est qu'ils n'en ont pas reçu la révélation complète, parce que le temps n'était pas venu. Vous ne pouvez pas mettre l'épi sur le maïs avant que ce soit le temps pour ça. Voyez? Puis finalement, la semence originelle qui a été mise en terre revient de nouveau. Voyez-vous? Dieu œuvre en harmonie parfaite avec la nature. Voyez-vous? Il est né un agneau. C'est pour ça qu'il est né dans une crèche. Les agneaux, ça ne naît pas dans un lit. Voyez-vous? Il a été mené au calvaire. Un agneau, des brebis, on les mène. C'est exact. Les boucs les mènent à la boucherie, vous savez, à l'abattoir. C'est un bouc qui les mène, mais ils doivent être menés. Ah, c'est exact. Donc, il a été mené à la boucherie, voyez-vous, parce qu'il était un agneau. Tous les éléments de la nature l'ont identifié. C'est pour ça qu'il est né en mars ou en avril, et non en décembre. Il n'aurait pas pu. Il y avait 26 pieds de neige là-bas à cette période de l'année. Il n'était pas du tout un dieu soleil, mais il était le fils de Dieu, voyez, le dieu soleil romain. Le 25e jour de décembre, quand le cycle solaire arrive à certains points-là, ils allaient au cirque romain, ils appelaient ça la fête du dieu soleil. Ensuite, ils ont dit que c'était la celle du fils de Dieu. Non, non, il était le fils de Dieu. Son anniversaire a correspondu au reste de la nature. Exactement. Maintenant, remarquez encore une autre chose. Nous continuons, il nous reste un peu de temps. Maintenant, pour parvenir à la perfection, après que la tige s'est formée, après que l'aigrette s'est formée, après que le grain s'est formé sur l'épi, il doit ensuite parvenir à la perfection pour former à nouveau un grain normal. Et souvenez-vous, le grain doit être fécondé. Voyez? Sinon, il ne vivra pas. Voyez? Tout ce qui ne faisait pas partie de ces messages ne viendra jamais à la vie. Il faut qu'il y ait fécondation pour pouvoir réagir à cela. Mais souvenez-vous, cette même vie qui était dans la tige et dans le grain, elle est simplement en train de parvenir de nouveau à maturité. Voyez-vous? Il s'est révélé comme quoi? Fils de l'homme, le grain qui avait été mis en terre. Vous saisissez le message? Les Grecs lui ont dit, nous voudrions voir Jésus. Il a dit, si le grain de blé ne tombe en terre, voyez? Très bien. Maintenant, comme quoi s'est-il révélé ensuite? Sous une forme différente. La tige, les graines et ainsi de suite, toutes les feuilles et tout. Ensuite, il s'est révélé comme quoi? Le même esprit, mais sous une forme différente. Voyez? Mais quel est le dernier stade de ce maïs? Il reprend la forme du grain originel. Pas vrai? Amen. Et son ministère passe par les réformes pour reprendre de nouveau la forme de la parole originelle. La parole vient à un prophète. Il a promis dans Malachie 4 et de ramener la foi des gens au stade du grain originel, ce qui a été mis en terre. Et c'est ce qu'il y a ici, c'est pareil. Le grain est passé par ces différents stades, il est apparu comme fils de Dieu, maintenant il se révèle ici comme fils de l'homme, et ensuite il se révèle comme fils de David sur le trône. Voyez, ces trois fils très précisément, oh là là, de nouveau, comme à l'origine. Maintenant, le stade du ministère parfait de lui-même, pas un homme, pas une dénomination qui ont ou leur action au cours de l'âge, là, voyez-vous, mais c'est lui-même manifesté. Il se manifeste selon la promesse, confirmant l'exactitude de Luc 17, 28, Malachie 4 et ainsi de suite, Hébreu 13, 8. Ce moment-là, ce serait le moment de quoi? Où la semence royale d'Abraham attendrait le fils promis. Et tous les types doivent s'accomplir. Et Dieu lui-même est apparu sous la forme d'un être humain à la semence naturelle d'Abraham avant la destruction. Et Jésus a dit qu'il serait pareil pour cette semence royale avant le retour du Fils promis. Remarquez le vieux voile qui cachait la gloire. Les vieilles peaux de blaireau, leur aspect n'avait rien pour plaire, sa chair non plus. C'est pour ça que les gens disaient une espèce de gars au dos voûté comme ça. Il avait probablement 30 ans, les cheveux gris, la barbe grise, il n'avait rien pour attirer les regards. La Bible dit son aspect n'avait rien pour nous plaire, il n'avait pas l'air d'un roi, la vieille peau de blaireau, mais oh, ce qu'il avait à l'intérieur. Et un petit groupe d'exaltés assis ensemble dans une salle surchauffée comme ceci, c'est comme ça qu'ils les appellent, pas grand-chose pour plaire dans leur aspect, mais ce qu'il y a à l'intérieur, je suis sûr que c'est voilà beaucoup de cœur, voyez-vous? À l'extérieur, il n'y avait rien pour tout ce qui se trouvait à l'intérieur. Une fois que vous êtes à l'intérieur, c'est là que vous le voyez. Comment y entrez-vous? Par une poignée de main? Par une adhésion? Non, vous y naissez en mourant, en vous débarrassant de votre vieille peau de blaireau, voyez-vous? Votre vieux moi pour entrer dans une nouvelle, voyez, se défaire de la vieille peau de blaireau. La lumière de la Shekinah. Écoutez les prédicateurs. Les prédicateurs, je veux que vous écoutiez ceci. Une fois qu'on est à l'intérieur, maintenant, je ne vais pas me presser ici pour bien m'assurer que vous le saisissiez. Une fois qu'on est à l'intérieur du voile, sous la gloire de la Shekinah, la lumière de la Shekinah ne prend pas la parole de Dieu pour révéler que Jésus est un diseur de bonne aventure. Non. Comme le font les dénominations aujourd'hui. Télépathie, exalté, Belzébul, ce n'est pas ce que la gloire de la Shekinah révèle à son sujet. Mais la gloire de la Shekinah fait mûrir la semence qui est promise pour l'heure, la parole, montrant qu'il est encore le lys de la vallée. Elle manifeste cette semence, le lys de la vallée, le pain de vie, l'alpha et l'oméga, la même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est la portion du croyant. La gloire de la Shekinah révèle au croyant qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Non pas ces jours-là, lui, c'est du passé, il est mort et c'est fini. Alors, mon ami, si vous croyez ça, vous n'êtes jamais entré en contact avec la gloire de la Shekinah. Comment la gloire de la Shekinah pourrait-elle jamais révéler qu'il est trois personnes, voyez? Comment la gloire de la Shekinah pourrait-elle jamais le révéler dans un baptême des gens au nom de Père, Fils, Saint-Esprit, alors que pas une seule personne dans la Bible n'a été baptisée de cette manière-là? Comment la gloire de la Shekinah pourrait-elle le restreindre à un apôtre alors qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Voyez, la gloire de la Shekinah le manifeste, lui. Elle produit la parole de la promesse directement devant vous. C'est pour cette raison qu'il lui a fallu voiler le visage de Moïse. C'est parce qu'en lui se trouvait la parole. Il a voilé Jésus sous forme d'un petit homme humble pour empêcher les gens de voir Jéhovah. Il se voile aujourd'hui dans des vases de terre avec la Shekinah. Au dehors, ça ressemble à une bande d'exaltés, des vieilles peaux de brélo. Mais au-dedans se cache la gloire de la Shekinah. Elle fait mûrir le pain de proposition dont nous nous régalons et pour lequel nous faisons des centaines de milles en voiture d'un bout à l'autre du pays. Vous voyez, c'est la nourriture des croyants. C'est destiné uniquement aux croyants. Souvenez-vous, le pain de proposition était destiné uniquement aux croyants, uniquement. Vous voyez, la semence pain de proposition, remarquez, qu'est-ce qu'elle fait, cette gloire de la Shekinah au-dessus du pain de proposition? Elle l'empêchait de se gâter. Souvenez-vous, la manne qui descendait du ciel, elle était conservée dans la gloire de la Shekinah de génération en génération. En dehors de là, les vers s'y mettaient pendant la nuit. Elle se contaminait, pas vrai? En dehors de la gloire de la Shekinah, les jours des miracles sont passés. Voyez, tout ça, c'est du fanatisme, mais à l'intérieur, regardez, on a trouvé des graines de tournesol dans un grenier en Égypte. Elle avait été mise à là à l'époque de Joseph, il y a presque 4000 ans de ça. Joseph les avait engrangées, on les a plantées, elles ont repris vie. Pourquoi? Il y avait de la vie dedans. Cette gloire de la Shekinah aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? De pénétrer de l'autre côté du voile pour voir qui est Dieu là devant vous, voir qui est Dieu ici devant nous. La colonne de feu, il est voilé dans la chair humaine. Mais que fait la Shekinah? Qu'est-ce qu'elle faisait? La semence, pain de proposition, la parole dont nous devons nous nourrir en ce jour-ci par ses promesses. La gloire de la Shekinah fait mûrir ce pain de proposition, en produit l'accomplissement, en fait du pain pour le croyant. Ce qui était là, dans les pages de la Bible, année après année, la parole pour cet âge-ci, les dénominations pour elles, c'est une pierre d'achoppement. Les dénominations, elles s'y achoppent. Pendant toutes ces années, Luther, Wesley, Martin Luther et tout, Sankey, Finney, John Smith, Knox, tous, ils s'y sont achoppés. Mais qu'est-ce qui doit être fait dans les derniers jours? Révéler, qu'est-ce que c'est? Produire. Qu'est-ce que Malachika doit faire? Détourner les gens de cette pierre d'achoppement, démolir les traditions et révéler le pain par la gloire de la Shekinah. Regardez-le mûrir et produire exactement ce qui avait été dit qu'il produirait. Oh là là, le pain de proposition pour cet âge. Pour les dénominations, une pierre d'achoppement, une bande de fanatiques. Mais pour nous qui croyons, mais maintenant, comme Apocalypse 10 l'a promis, tous les mystères de Dieu qui avait été caché dans les pages pendant toutes ces années arriverait à maturité, serait divulgué dans l'âge du message du septième ange. Pas vrai? Qu'est-ce qu'il a dit il y a un an et six mois, presque deux ans maintenant? Va à Tucson. Il sera au nord de Tucson, une grande explosion, et ce qui se produirait, les sceaux seraient ouverts, les sceaux qui révèlent ces choses. Je suis revenu, exactement comme il l'a dit. De quoi s'agit-il? Ça montre que ça ne peut pas être de l'homme. C'est parfaitement juste, en plein dans le mille chaque fois. Qu'est-ce que c'est? C'est la main de Dieu. Voyez-vous devant nous? Et parce que c'est dans un petit groupe, voilà, dans la chair humaine, c'est voilé au monde extérieur, il est caché au monde extérieur. Il se révèle aux petits-enfants qui sont disposés à apprendre. Vous voyez? C'est exact. Toutes les paraboles de la Bible, tous les types de la Bible sont manifestés ici même devant nous. Le même Dieu dans la colonne de feu qui a écrit la Bible, l'Ancien Testament, aussi bien que le Nouveau Testament, est ici même en train de la manifester, de montrer précisément ce qu'il en était, d'en donner l'interprétation lui-même et pour confirmer que c'est bien l'interprétation. Nous avons l'interprétation dans ce cas. Voyons si la chose se produit. Voyez-vous? C'est ça. Voyons si la chose se manifeste. Manifestez, Jésus a dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, vous ne me croyez pas. Voyez-vous? Il faut que ce soit prouvé. Mais maintenant, ils n'ont pas prouvé, mais comme Jésus, ils ont entouré sa tête de morceaux d'étoffe et qu'ils l'ont frappé sur la tête en disant, si tu es prophète, dis-nous ça. Voyez, c'est le diable. Voyez-vous? Je veux dire, la révélation, ce qu'il est censé faire, voilà de quoi il s'agit. Mais maintenant, alors qu'Apocalypse 10 est révélé, les mystères de Dieu sont manifestés, difficultés, telles que promis dans le livre scellé de sept sceaux. Maintenant que votre foi en lui, qui est la parole, en effet, dans Apocalypse 10, il est dit, ou plutôt dans Apocalypse 19, j'avais noté ici Apocalypse 10, de prendre ça, mais ce n'est pas 10, c'est 19. Quand il reviendra, il sera appelé la parole de Dieu, chevauchant sur un cheval blanc, et ses disciples du ciel le suivront. Brisez le voile dénominationnel de l'instruction, brisez le voile dénominationnel de la tradition, brisez ces voiles qui le cachent à vos yeux, brisez ces voiles de l'orgueil, vous les femmes. Vous êtes des filles de roi. Montrez-le par votre conduite, montrez-le par votre vie. Brisez toutes les voiles, peu importe ce que dit le docteur en philosophie, le docteur en droit, si c'est contraire à la Bible, franchissez ce voile. En effet, nous sommes passés de l'autre côté du voile déchiré. Nous sommes de l'autre côté maintenant, de l'autre côté. Et vous verrez, si seulement vous faites ça, si vous brisez ces vieilles traditions et tout, et que vous venez à lui, vous le verrez, qui se tient là, le puissant vainqueur, la parole de promesse, pour cet âge-ci, manifestée. Vous verrez le Dieu Tout-Puissant, dévoilé, vous le verrez au beau milieu de nous, ici, dévoilé, le Dieu puissant, qui n'a pas été vaincu par les traditions. Ils ont essayé de le tenir caché là-derrière. Ils l'ont fait pendant des années, mais le temps de la promesse a approché. Dieu a suscité un Moïse. À un moment donné, il a délivré les enfants de ces choses. Il est encore, il ne peut pas être vaincu. Les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ils disent, la chose n'est pas faisable. Mais la chose s'est faite. Ensuite, après qu'elle s'est faite, ils ont dit, c'est du diable. Mais ça ne change rien à la parole de Dieu. Elle reste toujours Dieu pour le croyant, le puissant vainqueur, le même hier, aujourd'hui, éternellement, par sa nature, par sa parole. Hébreux 13:8. Je termine en disant ceci, parce qu'il est midi, moins 5. Je dirais seulement ceci. J'ai encore à peu près 10-12 pages. Je les présenterai une autre fois, peut-être ce soir. Remarquez ceci. Un jour, à une vente aux enchères, on offrait un vieux violon. Vous avez entendu raconter ça bien des fois, un vieux violon. Et le commissaire priseur a dit, « Combien m'en offre-t-on? » Il se peut que je ne le raconte pas tout à fait comme il faut, comme le poème. Il y a bien des années de ça, mais il me vient à l'esprit. Ils ont pris le vieux violon. Il n'était pas très beau. Il avait l'air sale. Il n'avait pas réussi à avoir une offre. Finalement, je pense qu'on lui a offert $1 ou quelque chose comme ça. Il y avait là quelqu'un qui n'était pas d'accord qu'il se vende à ce prix-là. Alors, il s'est avancé, il l'a pris, il a promené ses mains dessus, il a mis l'archet, il a ciré le cellophane, il a joué un air. Et à ce moment-là, tout le monde s'est mis à pleurer. Ils n'avaient jamais de leur vie entendu une musique comme celle-là. Alors, le commissaire priseur a dit, « Combien m'en offre-t-on? 2000, 5000, 10 000? Qu'est-ce que c'était? » La main du maître avait révélé ce qui était voilé dans le vieil instrument. C'est pareil maintenant. Le vieux livre, il est usé. On en a ri, on l'a brûlé. On s'en est moqué, mais le moment est venu. Ils font une vente aux enchères dénominationnelles, le Conseil mondial des églises. Ils le vendent comme si ça ne regardait personne. Une vente aux enchères dénominationnelles va avoir lieu, mais souvenez-vous, quelque part dans le vieux livre, il y a la promesse qu'un jour, une main prédestinée, ordonnée de Dieu, viendrait le prendre et faire que la parole de ce livre, par le moyen d'un cœur prédestiné pour la tâche pour laquelle il avait été fait, révèle les promesses qui y sont contenues. Ça peut avoir l'air d'une vieille bande d'exaltés ou quelque chose comme ça, mais tout ce qu'il faut, c'est la main du maître, la parole là-dessus pour révéler cette parole. Et là, ça devient plus qu'un exalté. C'est notre cœur à chacun de nous, n'est-ce pas, mes amis? Ce n'est pas un tas de fanatisme. Tout dépend de la main qui tient l'archet. Prions. Notre Père Céleste, aujourd'hui, par la foi, je vois le maître du vieux livre qu'ils ont troqué contre des traditions. Ils l'ont troqué contre des dénominations. Ils ont essayé de l'échanger. Maintenant, ils l'échangent contre un conseil mondial d'hommes, d'églises à tendance communiste, athée. La vente aux enchères se poursuit, Seigneur. Ô Dieu, avance-toi, certainement que tu le feras. Envoie-nous ce prophète, Seigneur, qui prend cet archet, qui prend cette parole et démontre que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Beaucoup d'entre eux, Seigneur, vendront leur vie. Ils se débarrasseront des vieilles traditions. Ils briseront leur voile. Ils le veulent, Seigneur. Ils sont prêts à tout donner, tout pourvu qu'on leur donne Jésus. Seigneur, je pense que tu le leur as prouvé maintenant. Ils viennent de partout. Ils dépensent leurs revenus. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour tâcher de venir aux réunions, pour faire tout ce qu'ils peuvent, parce qu'ils ont trouvé cette perle de grand prix. Les autres choses comptent très peu. Bénis-les, Père. Sur cette chaise ce matin, Seigneur, il y a des mouchoirs. Peut-être que certaines personnes devront partir aujourd'hui avec le service de guérison ce soir. Ô Dieu éternel, abaisse le regard. Je sais que tu es ici, tu es voilé. Et j'envoie ces petits voiles, Seigneur, qu'on appelle des mouchoirs, et des petits linges et des petits chaussons de petits bébés. Je les envoie en guise de petits voiles, comme quoi ta parole a été prêchée au-dessus d'eux ce matin. Et en tant que croyant, j'impose mes mains sur eux, mon corps, pour indiquer que moi, j'y crois. Et par la foi que chaque personne qui est dans ce bâtiment fait la même chose, Seigneur, puisse les malades se rétablir. Tu peux promener tes mains sur la parole ici, Seigneur, comme le vieux violoniste l'a fait sur le violon. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Fais-lui exécuter l'air juste, l'archet, dans la main du maître, et alors nous le verrons se tenir là, à la vue de tous, ce qui a dû traverser l'esprit des gens ce jour-là, alors qu'ils n'avaient rien voulu offrir, qu'ils n'avaient rien offert pour le vieux violon. Ils n'en voulaient pas. Ils n'en voulaient pas dans leur maison. Mais dès que celui qui savait bien jouer de l'instrument l'a eu pris dans ses mains, là, ils ont tout vendu ce qu'ils avaient pour l'obtenir. Ils se chamaillaient, ils se disputaient pour l'avoir. À ce moment-là, il était trop tard. Ce sera pareil un de ces jours, quand la trompette du Seigneur retentira, qu'il n'y aura plus de temps. Ceux qu'on dévisageait et dont on se moquait, qui se sont tenus là devant le voile ouvert et qui ont vu la parole de Dieu manifestée, d'autres pousseront des cris, chercheront à l'obtenir. Mais comme tu l'as dit, à ce moment-là, il sera trop tard. Ils seront allés au souper des noces et eux seront restés dehors, où il y aura des pleurs, des gémissements et des grincements de dents. Aide chaque personne à croire ce matin, Père. Franchis tous les voiles d'égoïsme, tous les voiles d'incrédulité, et qu'on voit le puissant vainqueur dévoilé devant les croyants. Car voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Montre-toi au milieu de nous, Seigneur, comme tu l'as fait. Et reste toujours ainsi jusqu'à ce que nous paraissions visiblement devant toi, quand il y aura un changement du In Marfa et que tu seras de nouveau fils de l'homme, ensuite fils de David. Accorde le Seigneur par le nom de Jésus-Christ, pendant que nous avons la tête inclinée, soyons tous en prière. Je me demande aujourd'hui s'il y en a qui, à l'intérieur comme à l'extérieur, il n'y en a aucun moyen d'inviter les gens à s'avancer à l'hôtel ici parce qu'il n'y a pas assez de place. Mais je me demande sincèrement, est-ce que vous croyez que ceci est la vérité? Est-ce que vous croyez qu'en ce jour où nous vivons, dans tout ce chaos, dans cet âge de science semblable à l'époque de Noé, à l'époque de Moïse, à l'époque de Christ, que Dieu, le glorieux Père de nous tous, qui sommes en lui par une naissance, se tient au milieu de nous aujourd'hui. Cette colonne de feu visible qui a été prouvée par la science, il y a bien des années, quand j'étais un petit garçon, elle m'a parlé, m'a dit que j'allais vivre ici et ce qui allait se produire. Je vous en ai parlé, puis un jour à la rivière, avant le début de ce ministère, lors du premier réveil, il est apparu dans les cieux. Il s'est identifié et a donné la commission. Pendant toutes ces années, j'ai tenu cela caché dans mon cœur, voilant Christ, la même colonne de feu qui interprète la parole telle que promis. Nous sommes au dernier jour, juste à la venue du Seigneur. Et si vous vous trouvez à l'extérieur de ce voile et de rester à l'extérieur, c'est la mort. Voulez-vous, par la foi, ce matin, dire, avec l'aide de Dieu, avec ton aide, Seigneur, je veux franchir ce voile, je veux pénétrer là où tu es pour voir la parole entière de Dieu. Ne cherchez pas à être un Moïse, ne cherchez pas à être un Aaron. Non, simplement, mais soyez un chrétien. Voulez-vous, avec vos têtes inclinées, lever les mains vers Dieu et dire, « Seigneur Dieu, aide-moi à pénétrer à l'intérieur du voile. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. » C'est « Regardez-moi toutes ces mains, ceux qui sont à l'extérieur. » Souvenez-vous, il se peut que je ne vois jamais votre main. De toute façon, je ne vois pas, ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est pour Dieu que ça en a. Tout ce que ça me fait à moi, ça me fait simplement voir que la semence est tombée quelque part. Et, mais Dieu voit ce qu'il y a réellement dans le cœur. S'il y en a d'autres qui n'ont pas levé la main, qui voudraient lever la main maintenant, levez la main pour qu'on pense à vous en prière. Levez la main. Que Dieu vous bénisse. C'est bien. Que Dieu vous bénisse. Père, nous prions aujourd'hui pour ces gens, Seigneur, qui n'ont pas encore traversé de l'autre côté de ce voile. Ils sont là-bas comme Israël. Ils observent. Ils croient, mais ils n'ont pas encore jamais pénétré dans ceci pour voir cette glorieuse lumière de la Shekinah, tant spirituelle que physique. Puisqu'on ne cesse d'en prendre la photo avec l'œil mécanique d'un appareil, il y a seulement 2 semaines, elle a encore été prise en photo. Tu te révèles, Seigneur, le Dieu puissant dévoilé aux croyants, encore voilé à l'incroyant, mais dévoilé aux croyants. Qu'il pénètre à l'intérieur aujourd'hui, Seigneur, qu'il voit sa grande splendeur et sa gloire, que leur cœur soit changé avant même que nous revenions à l'Église ce soir. Qu'ils soient tous remplis de ton esprit, de ta présence, que le maître prenne cette foi qu'ils ont, qu'il la promène sur la parole et que cette heure revienne à eux. Tu as été prédestiné avant la fondation du monde à croire ceci. Crois, mon enfant, et sois sauvé. Dieu, notre Père, nous les remettons entre tes mains. Maintenant, conscient que nous ne pouvons rien faire de plus, tout est entre tes mains maintenant. Père, je te les remets. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Je l'aime. Parce qu'il m'a aimé le premier. A acquis mon salut sur le bois du calvaire. L'aimez-vous? Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi, conseiller, tout-puissant, prince de la paix. Il me sauve, il me garde. À lui pour jamais. Merveilleux est mon sauveur, mon Dieu, mon roi. J'étais perdu, je suis sauvé, plus aucune condamnation. En Jésus, je suis libre, j'ai un plein salut. Il me sauve, il me garde. Loin de tout péché. Merveilleux est mon sauveur. Gloire à son nom. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Conseiller, tout-puissant, prince de la paix. Il me sauve, il me garde à lui pour jamais. Merveilleux est mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Combien le voient, le puissant vainqueur qui se tient là, la parole faite chair, dévoilée devant nous, l'alpha, l'oméga, celui qui était, qui est et qui vient, la racine et la postérité de David. Il a été fils de l'homme, fils de Dieu, fils de l'homme, et il sera fils de David. Le croyez-vous de tout votre cœur? Dans chaque âge, il s'est dévoilé pour se présenter aux croyants. Il s'est voilé dans la chair humaine à l'incroyant. Il est caché derrière un voile. Puisse Dieu briser tous les voiles et que nous le voyons tel qu'il est. Jésus brise toutes les chaînes. Jésus brise toutes les chaînes. Oh, Jésus brise toutes les chaînes. Quand il te met en liberté. De l'autre côté du Jourdain. Dans les beaux champs de l'Éden. Là où l'arbre de vie fleurit. Je trouverai le repos. Jésus brise. Ne voulez-vous pas traverser le Jourdain maintenant? Il y a assez longtemps qu'on est dans le désert, vous ne trouvez pas? Traversons. Emparons-nous des promesses. Jésus brise toutes les chaînes. Jésus brise toutes les chaînes. Oh, quand il te met en liberté. Maintenant, levons les mains. Je le louerai, pour toujours. Je le louerai. Toujours, je le louerai, toujours, car il me met en liberté. Amen. N'est-ce pas réjouissant? Oh, comme c'est merveilleux, comme il est merveilleux, là, n'est-ce pas? Serrons-nous la main les uns les autres maintenant en disant « Jésus brise toutes les chaînes. » Jésus brise toutes les chaînes. Oh, Jésus brise toutes les chaînes. Que Dieu te bénisse, mon frère. Oh, il te met en liberté. Je le louerai. Toujours le Dieu puissant. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a seulement changé de forme. Louerai toujours. Car il m'a débarrassé de tous les credos, m'a mis en pour que je croie sa parole. Oh, n'entendez-vous pas le violon du maître se promener, l'archet se promener sur cette parole? Il est le même hier, aujourd'hui. Je le louerai, toujours. Je le louerai toujours. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, la parole. Qu'est-ce qu'il a fait? Car il m'a mis derrière le rideau, en liberté. Que Dieu soit loué. Je l'aime. Vous l'aimez? N'est-ce pas que c'est céleste? J'aime ces attributs de la parole. Voyez-vous, le Saint-Esprit qui vient de cette façon douce, toute humble. J'aime vraiment ça. Oh, pensez un peu de l'autre côté du Jourdain. Je suis prêt d'y arriver, là. Allez, beau, immortel, chant de l'Éden. Qu'est-ce que j'y trouverai? Là où l'arbre de qui était dans le jardin d'Éden fleurit. Je trouverai le repos. Vous voulez y aller? Il brise toutes les chaînes. Jésus brise toutes les traditions. Toutes les chaînes. Jésus brise toutes les chaînes. Toutes les dénominations, tous les credos. Brise toutes les chaînes. Et il t'a mis en liberté. Que Dieu soit loué. Comme je l'aime. Ce n'est pas étonnant qu'Isaïe ait dit, il est conseiller, prince de la paix, Dieu puissant, Père éternel, merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Jésus est pour moi, conseiller, tout puissant, prince de la paix. Il me sauve, il me garde. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Oh là là, ça fait vibrer mon cœur. Comme il est merveilleux. Je vous le dis, il n'y a pas de fin à ceci. Quand j'y suis entré il y a 33 ans, c'est comme ça que je me sentais. Et s'il tarde, un jour, je fermerai les yeux et je repartirai comme ça aussi. Amen. Merveilleux. Jésus est pour moi. Il est conseiller, tout-puissant, mon prince de la paix. Il me sauve. Il me garde à lui pour jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Je pourrais passer le reste de la journée ici à baigner là-dedans. Paul a dit, si je chante, je chanterai dans l'esprit. Oui, si je prêche, je prêcherai dans l'esprit. Si je marche, je marcherai dans l'esprit. Si je parle, je parlerai dans l'esprit. Que tout soit fait par la parole et par l'esprit. Oui, monsieur. Amen. Tout ça, c'est la vérité de Dieu. Je le vois, le Dieu puissant dévoilé. Je le vois écarter les credos, les dénominations, écarter les sceptiques, les programmes pédagogiques et tout. Ça m'en sait se tenir là. Pensez-vous que les credos auraient pu le vaincre? Pensez-vous que les dénominations auraient pu le vaincre? Pensez-vous que le Conseil mondial peut le vaincre? Il a tout vaincu, brisé toutes les chaînes, éventré le séjour des morts, et il a arraché le sceau. Il est entré dans le Saint des Saints. Il s'est dévoilé à nous comme la parole, la même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Je l'aime. Maintenant, jusqu'à ce que nous revoyons cet après-midi, nous voulons faire une chose. C'est reviens-toi du nom de Jésus. Pour toi, enfant de tristesse, il va te procurer la joie. Prends-le partout où tu vas. Précieux nom. Nom si doux. Espoir de la terre. Joie du ciel. Précieux nom. Oui, je m'en suis occupé. Nom si doux. Espoir de la terre. Si Satan essaie de vous tenter, que vous ne regardez pas la chose juste, montrez-lui la parole comme Jésus l'a fait, voyez? Voyez? Amen. Nous courbons au nom de Jésus. Tombant prosterné à ses pieds. Au ciel, nous le couronnerons, roi des rois. notre voyage terminé. Précieux nom. Espoir de la terre, joie du ciel. Précieux nom, nom si doux. Espoir de la terre, joie du ciel. Billy sera ici vers 6 heures. Il distribuera des cartes de prière à ceux qui veulent passer dans la ligne de prière. Je pense qu'il vaut mieux le faire. On n'avait pas l'intention de le faire, mais comme il y a beaucoup de monde, il vaut mieux le faire, voyez-vous. Maintenant, souvenez-vous de lui. Gardez-le toujours dans votre pensée, dans votre cœur, partout où vous allez, voyez-vous. Gardez Jésus dans votre pensée. Revêt-toi du nom de Jésus. Maintenant, écoutez. Comme d'un puissant bouclier. Qu'est-ce qu'il arrive? Quand les tentations surviennent, que devez-vous faire? Murmure simplement ce saint nom en prière. Précieux nom. Nom si doux. Espoir de la terre. Joie du ciel. Précieux nom, nom si doux, espoir de la terre, joie du ciel. Maintenant, courbons la tête. Je vais demander au pasteur s'il veut bien venir terminer la réunion. Frère Neville, que Dieu te bénisse, Frère Neville.